Juste le genre à l'ancienne mode que nous avions il y a bien des années. Et nous en sommes si reconnaissants. Et j'apprécie ces chants supplémentaires, tous ces chants et ces chants spéciaux. Arrivé à la fin du chemin, je pourrai me reposer à la fin du jour. C'est là, peut-être, simplement assis ici, quand il chantait ce chant. Je regardais à l'extérieur et je voyais le soleil se coucher. Les oiseaux chantent tous d'une voix basse et profonde. Tout est presque terminé maintenant. Ils sont partis se reposer, puis ils se lèveront demain matin pour un jour nouveau. Et c'est comme ça avec la vie. Les jours de travail passeront bientôt et nous nous coucherons sur notre divan. J'aimerais lui parler ce jour-là, lui parler simplement, m'entourer de mes vêtements et entrer dans cette chambre, sachant que, comme saint Paul l'a dit autrefois, je le connais dans la puissance de sa résurrection, et que lorsqu'il appellera à sortir d'entre les morts, je serai appelé avec eux. Le connaître dans la puissance de sa résurrection, non pas le connaître en parole ou en œuvre, mais le connaître dans la puissance de sa résurrection. C'est l'un de nos grands espoirs ce soir. Et le seul espoir que nous avons, c'est dans cette glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous avons maintenant notre résurrection préliminaire, de la mort à la vie, en ayant la vie éternelle par Jésus-Christ. Dans l'attente glorieuse de toute la nature, jusqu'à ce jour où il viendra la deuxième fois du ciel et Dieu l'enverra au temps convenable. Et alors, ces corps mortels dans lesquels nous soupirons maintenant revêtiront l'immortalité et nous serons transformés et rendus semblables à son corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Alors le péché et le chagrin, le péché et la mort de ce monde de ténèbres cesseront. Dans ce glorieux règne de mille ans de paix avec Jésus. Les oiseaux attendent cela, les arbres attendent cela, toute la nature se courbe et pleure, attendant ce moment-là, gémissant, désirant être revêtue. Ma petite fille, tout à l'heure, m'a posé une question. Elle a dit, « Papa, à quoi ressemblait cette terre quand Dieu l'a achevée ?» J'ai dit, « C'était magnifique, chérie. » C'était magnifique. Et j'ai dit, un jour, ce sera de nouveau comme ça, quand la malédiction sera enlevée. Et alors ce sera comme au commencement, un glorieux paradis de Dieu. Maintenant, commençons tout de suite ce travail. Je pensais, là, le premier soir, c'est le troisième soir de notre petit réveil. Et nous n'avons pas fait de campagne de guérison. C'est simplement pour nous détendre, simplement pour exprimer nos sentiments et pour enseigner l'Évangile à l'ancienne mode. Le même Évangile que j'ai enseigné ici il y a bien, bien des années. Ça n'a pas changé du tout. C'est vrai, c'est exactement le même Évangile, pas la moindre modification ou le moindre polissage. Exactement le même Évangile. Là-bas, dans les services, comme ils sont interdénominationnels, étant donné que cela a lieu dans de grandes salles et que beaucoup de gens de dénominations différentes se rassemblent, on se retient un peu de parler de la doctrine, de tout sauf de la guérison divine et, bien sûr, d'accepter le Seigneur Jésus. Mais quand on est à la maison, comme à l'église locale ici, on se sent à l'aise d'enlever son faux col et de simplement prêcher ce qu'on croit être juste. C'est tout. Et bien des fois, ici, nous avons, bien des fois, des gens en désaccord. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec nous sur les doctrines de notre Église et les choses que nous avons. Mais nous serions peut-être pareils, comme votre pasteur le prêchait. Mais il serait quand même mon frère. Ne manquez pas d'égard envers lui. Et chacun voit les choses de manière différente. Et cette semaine, comme j'ai dû annuler une semaine au Canada à cause d'une tempête de neige, eh bien, ça m'a donné le privilège de pouvoir venir ici, au tabernacle, pour un réveil de quelques soirs. Ce que j'avais promis quand je suis parti, et j'ai annoncé qu'il n'y avait pas un service de guérison, c'est juste pour prêcher l'Évangile. Juste, et à ce sujet, j'ai pensé que nous pourrions peut-être consacrer quelques soirées aux sept âges de l'Église. Car je crois vraiment que nous vivons dans le dernier âge de l'Église, le dernier jour, juste avant la venue du Seigneur Jésus. J'essaye toujours de peser mes mots, petite église ici, partout où je prêche, parce que le bon Seigneur du ciel m'a donné un petit ministère pour du côté surnaturel, comme vous le comprenez. Et les gens s'accrochent à votre parole. Et alors, je dois faire très attention aux déclarations que je fais. En effet, si le Saint-Esprit a accordé ce pouvoir de vision et de discernement qui est incontestable, et que les gens vous entendent parler, ils considèrent que vous avez une idée de ce que vous parlez. Sinon, Dieu ne bénirait jamais une erreur et la répondre comme ça, voyez. Et donc, vous devez être très prudent et peser cela à la lumière de la parole, tout le temps. Et là-dessus, si je fais une erreur, je prie que Dieu me pardonne, parce que ce n'est pas mon intention. Et à tout moment dans l'enseignement, et en particulier dans ces sujets profonds que nous abordons en ce moment, et hier soir, sur la marque de la bête, et des sujets comme celui-là, et ce soir, le sceau de Dieu, la marque de Dieu, et ainsi de suite, comme ça. J'ai l'impression que peut-être, il y en a peut-être beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ceci, avec ce que j'enseigne là-dessus. Mais j'essaie de le faire simplement comme de ne pas l'adresser à une église quelconque, à une dénomination quelconque, ni à une personne quelconque. Pas du tout. Dieu le sait. Rien que dans la lumière dans laquelle je le vois, c'est comme ça que je le dis. Et il n'y a pas une église qui prononce le nom du Seigneur Jésus que je n'aime pas. Il n'y a pas une personne qui peut invoquer son nom ou avoir du respect pour lui, pour qui je n'irai pas jusqu'à la mort, pour faire n'importe quoi pour eux. C'est vrai, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, qu'ils soient méthodistes, baptistes, catholiques, quoi que ce soit, ça n'a pas du tout d'importance pour moi. C'est vrai, tant qu'ils ont du respect pour mon Seigneur. Mais là, il y a un plan. Eh bien, chaque église enseigne peut-être la théologie de son église, en croyant que c'est basé sur un plan. Eh bien, bien des fois, en voyant ces choses, que ce n'est pas seulement la façon dont moi, je lis le plan. Alors, j'ai le droit, dans ma propre église, d'exprimer ce que je pense être juste. Ici, il y a quelque temps, un entrepreneur. J'étais à Milltown, à l'église baptiste de Milltown. Nous avions un réveil. Et frère Wright, et vous tous, je suppose, vous vous souvenez de Marion Lee. Et il était très bouleversé par quelque chose que j'avais enseigné sur le baptême d'eau. Eh bien, il est rentré chez lui et il était bouleversé à ce sujet. Et il était un entrepreneur. Cette nuit-là, il a eu un songe. Le Seigneur lui a montré qu'il construisait une maison et il devait y installer une fenêtre en baie. Et alors, au lieu d'y installer une fenêtre en baie, il a simplement construit une véranda en disant « ce sera très bien ». Alors, quand le propriétaire de la maison s'est présenté là, il a dit « démolissez-la jusqu'à la fondation ». Recommencer à zéro. Il avait donc reçu un enseignement différent de ce que la Bible enseignait. Alors il a dit, « Je ferai aussi bien de démolir la fondation et de la reconstruire. » Je suis rentré chez lui ce soir-là. Je suis resté toute la nuit chez lui. Et donc, nous... C'est vrai, un fondement doit être posé. Et même si je donne des enseignements sur ces sujets, je ne suis pas un enseignant. Mais ce que je sais sur cela, j'aime l'expliquer aux autres et communier autour de la parole. Alors que le Saint-Esprit rend cela réel dans notre cœur. Et alors, nous passons vraiment des moments merveilleux à le faire. Et pour donner un peu de repos à notre cher pasteur ici, Frère Neville, s'il y a des nouveaux venus parmi nous, cet homme ici est notre pasteur, Frère Neville, un homme de Dieu, un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Je ne le dis pas parce qu'il est assis ici, je le dis dans son dos ou n'importe où. Il est comme ça depuis que je le connais. Lui, il était un vrai méthodiste, et moi, j'étais un vrai baptiste, mais nous étions frères. Et alors, nous sommes tous deux devenus des exaltés. Très bien. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc, nous sommes d'un commun accord. Eh bien, nous passons des moments merveilleux ainsi. Nous sommes en communion les uns avec les autres, tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Donc, nous passons des moments merveilleux et nous apprécions vraiment les nouveaux venus parmi nous ce soir ici. notre petit réveil, je pense que vous vous demandez pourquoi il n'a pas été annoncé. Eh bien, c'était juste un petit moment de jubilé pour notre Église ici. Et c'est peut-être pour cette raison que nous, je ne sais pas comment le Saint-Esprit conduira, mais peut-être qu'un soir, avant que nous terminions ici, nous aurons peut-être un service de guérison, si le Seigneur le veut. Et alors, j'ai confiance qu'il accordera cela. Je dois retourner au Canada maintenant pour continuer les réunions de réveil. Et comme vous le savez tous, nous avons un emploi du temps assez chargé, rempli jusqu'à ce que nous partions outre-mer. Les préparatifs sont déjà faits pour commencer à Durban, du Sud, à Johannesburg, Afrique du Sud, en septembre, vers le 3. Et de là, nous continuerons jusqu'à Durban, et en Inde, et en Palestine, et au Luxembourg, et à Francfort, et en Transjordanie, et partout là-bas. Nous rentrerons à la maison quand le Seigneur nous conduira à revenir, quand il nous dira de revenir. Ensuite, ils sont en train de préparer un autre itinéraire pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie et par là-bas. Et là-bas, en Orient, au Japon et dans ces pays-là. J'ai l'impression que ton église d'ici, au pays, où les gens, oh là là, font du prosélytisme, les uns vers les autres, alors que des milliers de personnes n'ont même jamais entendu parler de Jésus une première fois. Et alors, j'ai le sentiment que, personnellement, j'ai le sentiment qu'il est de mon devoir de leur apporter le message du mieux que je peux. Et maintenant, alors que je... Permettez-moi de le répéter, là, parce qu'ici présent, il y a des méthodistes, des baptistes, des catholiques, des presbytériens, des pentecôtistes, des pèlerins de la sainteté, des nazaréens, assis ici. Et c'est comme ça que nous sommes faits. Je crois que ce sera comme ça au ciel, en quelque sorte. Tout le groupe, comme nous, sera assis là-bas. Et maintenant, ces messages, comme la marque de la bête, et aujourd'hui, alors qu'il y a une telle confusion, l'avez-vous compris hier soir? Si oui, dites « Amen ». Maintenant, ce soir, nous allons parler de la marque de Dieu, ou le sceau de Dieu. Bon, nous sommes conscients que, maintenant, je n'essaye pas d'utiliser deux Bibles pour prêcher. Une seule, c'est suffisant. Mais une de celles que j'ai ici, c'est dans le but d'avoir des petites notes de bas de page, et ainsi de suite, de référence. Si quelqu'un devait poser une question, et maintenant, demain soir, si le Seigneur le veut, après avoir prêché, le premier soir, sur les sept âges de l'Église, nous avons vu où nous en étions, où nous en sommes, notre position, au jour où nous vivons. Hier soir, sur le plus grand criminel du monde, la marque de la bête. Et ce soir, sur la plus grande bénédiction du monde, le sceau de Dieu. Demain soir, je vais vous donner l'occasion de me tirer dessus, là. Demain soir, ce sera pour les questions et les choses que vous ne comprenez pas au sujet de ce qui a été prêché. Vous avez été assez gentlemen et lady, ou assez chrétien, je dirais, pour rester calme pendant les réunions. Je veux que vous écriviez demain soir quand vous viendrez à l'église, et venez le plus tôt possible, parce que je devrais venir tôt pour lire et pour y répondre votre question au sujet des Écritures. Ensuite, dimanche matin, c'est l'école du dimanche habituelle. Dimanche soir, peut-être dimanche soir, c'est le service de baptême. Il y a des gens qui se feront baptiser. Et puis, dimanche soir, nous aurons peut-être soit un message de l'Évangile, soit un service de guérison. Nous verrons vers quoi le Seigneur nous conduira pour ce soir-là, pour dimanche soir, le message là-dessus. Maintenant, nous voyons, avant d'aborder ceci, qu'il n'y a personne dans le ciel, personne sur la terre ou personne sous la terre qui était digne de prendre le livre ou de l'ouvrir ou d'en rompre les sceaux. Personne. Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Et nous enseignons maintenant l'Apocalypse. Et Jean pleura, mais un agneau avait été immolé dès la fondation du monde. Il était digne de venir prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et cet agneau, bien sûr, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, s'il est le seul qui soit digne, il a vécu jadis avec nous sur terre sous la forme d'un homme. Dieu a vécu dans son Fils, Jésus-Christ. C'était l'homme-Dieu. Et il est retourné dans la gloire. En nous laissant cette parole, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. La personne du Saint-Esprit, Dieu, revenu sous la forme qu'il... Jésus a dit, « Je suis venu de Dieu, je m'en vais à Dieu. » Il est sorti de l'éternité, est entré dans le temps, il est sorti du temps et est retourné dans l'éternité. Et le monde ne l'a point connu. Il était dans le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ est avec nous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Maintenant, il y aura un monde qui ne le verra pas. Et il y aura un vous qui verra. Car je est un pronom personnel. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous, le croyant, vous me verrez jusqu'à la fin du monde. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Observez-le dans sa puissance, le même Seigneur Jésus, le même amour, les mêmes prodiges, les mêmes signes qui l'accompagnaient, qui continuent à avancer. Il est maintenant dans le corps mystique, le corps des ressuscités, du péché à la vie. Il vit en eux. Dieu, dans sa grande gloire, Dieu s'abaissant, sortant de la colonne de feu, que personne ne pouvait toucher, dans une forme de chair humaine qu'il pouvait toucher, mais il était né d'une vierge. Alors là-bas, il a donné sa vie pour être crucifié, afin de purifier l'homme pécheur, et il a pu vivre au milieu des hommes. Quel amour Dieu éprouve pour l'homme, au point qu'il est descendu se dévoiler, pour fournir une voie pure, afin qu'il puisse vivre parmi les hommes et les femmes et les aimer. C'est beau, oui, ça, c'est notre Père. Parlons-lui maintenant, lui, l'auteur du livre, avant de tourner les pages. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons à toi ce soir, de la manière qui nous a été promise. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nous n'avons pas de justice, nous n'avons rien à offrir. Nous venons seulement au nom du Seigneur Jésus, sachant que tu as promis d'entendre par ce nom. Alors, nous te demandons, sachant que nous avons ici à l'étude ce soir, l'un des sujets les plus remarquables du jour, le sceau de Dieu. Père, nous prions, Seigneur, sachant que ce petit groupe de gens rassemblés ici, si je devais les induire en erreur, j'en rendrais compte au jour du jugement. Et hier soir, sur le sujet de la marque de la bête, ô Père, nous te prions de guider et de diriger ces paroles. Puissent-elles ne pas retourner sans effet, mais qu'elles accomplissent le dessein pour lequel elles ont été écrites dans le livre. Et maintenant, viens, toi, le Saint, prends la parole de Dieu de la Bible, prononce-la par des lèvres mortelles, à des oreilles mortelles, et circoncis à la fois celui qui parle et celui qui entend, afin que nous puissions accomplir quelque chose par ce rassemblement ici ce soir, sachant qu'il pourrait y en avoir ici, si le monde subsiste une autre année, qui ne seront plus des mortels sur la terre. Et maintenant, nous sommes dans la maison de correction, dans la maison de Dieu, où nous devons nous tenir pour être corrigés. Et puisse le Saint-Esprit me corriger et fermer ma bouche, comme tu as fermé la gueule des lions pour Daniel. Et tu connais mon cœur, si je disais une seule parole contraire ou de moi-même. Puisse le Saint-Esprit oindre chaque parole, se tenir simplement comme un vase vide, et puisse-t-il prononcer la parole de Dieu ce soir, car nos cœurs affamés désirent ardemment l'entendre nous parler. Et puisse celui qui a écrit la Bible venir l'interpréter à tes humbles serviteurs ici présents. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour avoir un peu le contexte, pour commencer ce soir avec le sceau de Dieu. N'oubliez pas, demain soir, nous voulons que vous apportiez votre question. Écrivez-la clairement et déposez-la sur l'estrade, tôt ou sur la chaire, dès que possible. Maintenant, ce grand sujet que nous avons eu hier soir, le premier soir, avant-hier, c'était l'Église et l'âge de l'Église. Nous avons vu Jésus debout au milieu des sept chandeliers d'or, qui avaient l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, le commencement et la fin, Ruben et Benjamin. Nous avons vu les sept chandeliers ou les sept porte-lampes debout et un arc-en-ciel au-dessus, comme une alliance. Et comment il est apparu? Et sa voix était la voix de grosses eaux. Christ et l'Église qui parlaient ensemble avec une ceinture d'or sur le thorax de l'Église, recouvert, qui tient, l'Évangile qui tient, la justice de Christ au-dessus de l'Église. Debout sur le fondement d'airain, le jugement divin. Dieu a déversé son jugement divin sur Christ et il a souffert, l'innocent pour le coupable. Alors, nous avons vu que cela commençait avec l'Église d'Éphèse, puis le deuxième âge de l'Église, le troisième âge de l'Église, le quatrième âge de l'Église, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, puis dans l'âge de Luther et l'âge de Philadelphie et jusqu'à l'âge de Laodicée, le dernier âge. Nous avons vu dans l'Ancien Testament qu'ils avaient été parfaitement présentés en type au commencement, dans Salomon, jusqu'au temps d'Akab, l'âge des ténèbres. Et nous avons vu, alors que Jézabel, Akab, était un prédicateur frontalier, ou un homme qui n'était pas constant dans sa position, tout comme beaucoup de membres d'église tièdes aujourd'hui, des gens qui ne sont pas constants dans leur position. Aujourd'hui, dans l'église, demain, on peut s'attendre à les trouver n'importe où. Ils font des compromis. Ils abandonnent, ils suivent le monde, pourtant ils se disent chrétiens. Et Akab, dans cet état-là, est tombé amoureux d'une belle petite femme, bien qu'elle soit méchante au possible. Il l'a épousée et a introduit l'idolâtrie en Israël, en plein au temps le plus sombre d'Israël, l'âge des ténèbres. Maintenant, nous voyons qu'ils sont sortis de là et se tenaient sur l'airain, et ainsi de suite. Et finalement, ils sont devenus tièdes, au point que Dieu les a vomis de sa bouche et a accepté les jours des nations. Et maintenant, nous voyons qu'ils ont commencé dans le premier, l'Église d'Éphèse, au commencement, dans l'âge de l'Église. L'âge de l'Église suivant a commencé à se refroidir et à devenir tiède. Cela a continué. Et puis, l'âge des ténèbres. Et tout comme ce jour-là, Akab, qui a épousé une idolâtre, Jézabel, et qui a introduit l'idolâtrie en Israël. Alors, le protestantisme a épousé le romanisme, le catholicisme, et a introduit l'idolâtrie dans l'Église. Cela a continué au jour de Martin Luther, puis au jour de John Wesley, jusqu'au pentecôtisme, puis là, vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu se tourne de nouveau vers les Juifs. C'est absolument parfait. Bon, je sais que je suis... Vous dites là que je suis un typologue. C'est vrai. En effet, je sais une chose. C'est que si je vais vers mon ombre et que je vois à quoi ressemble mon ombre, j'ai une certaine conception de ce à quoi je ressemble, que je sois un animal à quatre pattes ou un oiseau à plumes ou quoi que ce soit. Cela produira une ombre. Et l'Ancien Testament était une ombre du Nouveau. Nous l'avons vu hier soir, dans Apocalypse 12, la femme avec la loi sous ses pieds, la lune et le soleil à sa tête, est un type. Toutes ces choses, nous dit Hébreux chapitre 11, elles étaient toutes des types et des ombres. Je crois, dans Hébreux 12, il est dit, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Or, nous avons vu ces choses. Puis, hier soir, nous avons repris ici pour voir où, avant-hier soir, nous avons alors vu que la première église, comment elle a commencé. Elle a été inaugurée et a commencé au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été déversé sur les croyants. Et nous avons vu la réaction de ces croyants et comment il a agi sur eux et ce qu'ils ont fait et les signes et les prodiges qui les ont accompagnés. Ensuite, nous voyons qu'à la fin de cet âge de l'Église, environ 300 ans, une hérésie s'est élevée parmi eux, appelée la doctrine des Nicolaïtes. Ensuite, nous avons vu qu'il s'agissait des œuvres au départ. Dans l'âge de l'Église suivant, c'est devenu une doctrine. Et ensuite, c'est devenu une persécution dans l'âge des ténèbres. Alors, c'est sorti de l'autre côté, ici, et nous avons vu que cela est ressorti dans les églises protestantes qui ont paru. Ensuite, nous retournons là, et nous voyons que toute la tiédeur se trouve ici, à la fin de l'âge, de ce côté-ci, comme tout cela se refroidit, exactement comme cela est arrivé au jour des Juifs. C'est la même chose au jour des gens des nations. Cela se refroidit en allant dans cette direction-ci, l'ombre. Cela s'estompe, exactement comme à l'époque de Wesley, et nous en avons parlé hier soir, et de Luther. Quel grand réveil vous avez eu! Mais au tour suivant, ça a commencé à se refroidir. Au tour suivant, ça s'est refroidi encore plus. Et maintenant, ce n'est plus qu'un tas de credos et de formalismes. Voilà tout, voyez? Et c'est comme ça que ça s'est passé tout le long. Donc, nous avons enseigné cela. Maintenant, écoutez attentivement, pour être sûr de vous en souvenir. Je ne condamne pas les catholiques et je ne condamne pas les protestants, car des deux et de tout cela sort la semence de Dieu par élection. Ceux qui sont destinés à la vie le verront et ils marcheront. Ceux qui ne peuvent pas voir marchent dans les ténèbres. Ça dépend de Dieu. Dieu le fait. Il a juré et promis à Abraham qu'il le sauverait, lui et sa semence. Maintenant, si vous avez la semence d'Abraham, vous avez la vie éternelle. C'est tout. Et vous êtes héritier selon la promesse. Et tout ça, c'est par la grâce et par l'élection de Dieu. Maintenant, remarquez ici, et parfois peut-être que si je prêchais plus ou que j'enseignais plus, ça fait des années. C'est la première réunion d'enseignement que j'ai depuis environ 8 ans. Et c'est juste un peu, peut-être que c'est un peu rouillé par endroits. Chaque fois que vous êtes, posez-moi la question que vous voulez. Déposez-la sur l'estrade ou sur la chaire, et je serai heureux de la recevoir. Maintenant, remarquez, mais tout ce que j'en sais, je ne l'ai jamais appris par l'homme, par un séminaire. J'ai prié jusqu'à ce que j'en aie la révélation. Et il fallait que ça concorde avec la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 manières de connaître un message. La première façon pour eux de le découvrir, c'était si c'était écrit dans la loi. Ensuite, c'était par un prophète. Ou la chose suivante, c'était l'Urim Thummim. Or, tout docteur sait ce qu'était l'Urim Thummim. C'était une lumière qui brillait sur le pectoral d'Aaron qu'ils avaient suspendu dans le temple. Or, si un prophète prophétisait et que la lumière ne brillait pas sur l'Urim Thummim, c'était faux. C'était une réponse divine de Dieu. C'était faux. Alors, si un songeur avait un songe et que l'Urim Thummim ne s'illuminait pas, c'était faux. Or, l'Urim Thummim a été aboli dans ce sens-là. Mais ceci, c'est l'Urim Thummim de Dieu maintenant, la Bible. Si un prophète ou un songeur ou quoi que ce soit, ou un docteur, n'a pas fondé sa théorie exactement sur l'ainsi dit le Seigneur, je ne le crois pas. Voyez, il faut que ça provienne directement d'ici, de la Genèse à l'Apocalypse, pas juste à un seul endroit. Il faut que cela soit partout dans la Bible et que cela concorde parfaitement. Oui, monsieur, cela doit concorder en tout point avec le reste des Écritures. Et il faut que le lien se fasse entre elles. Si vous ne le faites pas, vous pourriez prendre une chose et dire que cette chose, c'est le purgatoire, et prêcher le catholicisme en prenant la Bible. Mais il faut que cela concorde en entier, de la Genèse à l'Apocalypse, pour que le tableau soit clair. C'est vrai. Et le Saint-Esprit est celui qui développe ce tableau pour vous. Si vous voulez bien le laisser le faire, il vous conduira dans toute la lumière. La Bible dit, Jésus a dit qu'il le ferait. Maintenant, remarquez comme, là encore, nous voyons ce qu'ils ont fait là. Puis, au bout d'un moment, ils ont reçu une doctrine. Ils ont été persécutés. Ils sont sortis. Puis, nous découvrons que maintenant, en ce jour-ci, la Bible a prédit qu'il y aurait un temps où les hommes recevraient une marque, et une marque de la bête. Chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui s'élève dans le pays, tout le monde dit, c'est la marque de la bête. Quand l'ancien, je venais d'être ordonné dans l'église baptiste, quand j'ai entendu parler du NRA, eh bien, tout le monde disait, c'est la marque de la bête. Et alors, quelle que soit la chose qui commençait, c'est la marque de la bête. Et maintenant, ils disent, voilà la Russie qui s'abat, le communisme, c'est la marque de la bête. Mais c'est un mensonge, ce n'est pas la marque de la bête. La Bible dit ce qu'est la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas l'apparition d'un grand mouvement anti-religieux, anti-patrie, comme ça. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Le communisme, c'est un esprit. C'est tout. Nous n'avons pas à nous inquiéter au sujet de la Russie. C'est notre propre pourriture qui nous tue. Le communisme se répand dans nos églises et tout le reste. Vous le savez, dans nos écoles, dans nos foyers, partout, dans notre pays. La chose en entier est rongée par les vers. Le rouge-gorge qui picore la pomme ne lui fait pas de mal. C'est le ver dans le cœur de la pomme qui la détruit. Voilà ce qu'il en est. Ce n'est que de la pourriture parmi nous. Nous nous disons chrétiens et nous agissons comme le monde. Nous nous habillons comme le monde et nous avons part aux choses du monde. Et nous nous disons, le monde en a par-dessus la tête de ces choses. Et non seulement le monde, mais beaucoup de chrétiens aussi. Oui, j'ai souvent dit que Dieu fasse venir le jour où les hommes seront ce qu'ils devraient être. Si j'étais contre lui, je dirais que je suis contre lui. Je serai contre lui autant que je pourrais l'être. Mais je suis pour lui et je l'aime et je crois en lui. Et ma vie est entre ses mains pour qu'il en fasse ce qu'il veut, parce que je crois que le christianisme est la vérité. C'est vrai, je crois que c'est la vérité. En parcourant le monde et en y examinant les différents ismes et ainsi de suite, tous leurs fondateurs sont morts et reposent dans la tombe et ils ont une théologie. Mais c'est à peu près tout ce que l'Église chrétienne accepte. Mais ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des exploits et la puissance de Jésus-Christ ressuscité vit dans l'homme. C'est vrai, il n'est pas mort, il est ressuscité. Je serai avec vous et même en vous, et les choses que je fais, vous les ferez aussi. Oui, monsieur. Alors le monde regarde cela et dit, fanatisme, vous avez vu où nous l'avons abordé hier soir, avec l'aide de Dieu. Maintenant, nous voyons que la première chose qui a surgi pour former une forme quelconque de la bête, où la bête signifie une puissance. Nous avons examiné tous les symboles et tout hier soir pour prouver que la bête était la puissance. Et ça ne vient pas de la Russie, c'est sorti de Rome. C'est vrai, c'est venu de Rome. Et ce n'était pas un groupe d'hommes, ce n'était pas une organisation politique, c'était une institution religieuse. C'était une église assise sur cette colline, un seul homme là, qui avait autorité sur le monde entier. C'est tout à fait exact. Et nous avons vu que c'était une femme, et nous l'avons décrite très clairement. Non pas en prenant ma propre interprétation, simplement en lisant la Bible, qu'il n'y a aucun autre endroit au monde, aucune autre ville au monde, qui règne sur toute la terre. Dans chaque nation, ce filet de romanisme se répand, comme dans les 10 orteils de la vision de Daniel. Et nous voyons que c'était la cité du Vatican. Il y avait au moins une douzaine de fidèles catholiques assis ici hier soir. Ils sont restés tranquilles et ont écouté. Ils sont sincères. Ils ont faim. Or, on ne peut pas argumenter avec le prêtre. Il n'argumentera pas. Parce que pour un prêtre, si l'Église dit quoi que ce soit qui diffère de la Bible, l'Église a raison. À mon avis, la Bible a raison et l'Église a tort. Voyez, vous ne pouvez pas argumenter avec eux. Il n'y a pas moyen d'argumenter. Il n'y a pas moyen de discuter ou de débattre. En effet, ils croient ce que l'Église dit, c'est ça. C'est ça. Ce que l'Église dit, peu importe ce que dit la Bible, c'est ce que l'Église, elle, dit. Ils croient l'Église. Nous croyons la Bible. Maintenant, nous voyons qu'elle s'appelait... L'Église était une femme, et on lui donnait le nom direct et vulgaire de prostituée. Et alors, elle était la mère des impudiques. Et nous voyons que l'Église catholique a été la première Église mère. Elle est exactement ce qu'elle a dit qu'elle était. Elle est la première Église à avoir été organisée. Quand il est arrivé à Dieu d'organiser la religion, c'était l'Église catholique. La première organisation de religion chrétienne qui ait jamais été organisée dans le monde, c'est l'Église catholique. Maintenant, et puis finalement, elle était la mère des impudiques. Elle a donné naissance à des églises, comme elle, parce qu'elle ne pouvait pas être des garçons. Il fallait qu'elle soit des filles. Et nous voyons que l'Église protestante est un produit de l'Église catholique. En sondant les Écritures et en regardant votre livre d'histoire, nous voyons que l'Église protestante est le produit. Et les protestants ne peuvent pas pousser les hauts cris au sujet des catholiques, parce qu'il est dit des deux qu'elles sont des impudiques et une prostituée. C'est direct, mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Observez. Ensuite, il a dit, faisons. Aux États-Unis, ils ont dit, faisons une image à la bête. Si la bête était une puissance et que la puissance était une organisation, je ne prends pas la théorie maintenant. C'est la parole de Dieu. Les organisations de l'Église catholique se sont organisées et ont pris une des mises d'accord. Et elles ont établi ce qu'elles appellent les premiers pères. Elles ont organisé l'Église catholique. Et elles ont fait un rituel. Et ce qu'elles croyaient et ce qu'elles allaient enseigner, une croyance universelle. Et elles l'ont imposé aux gens par des châtiments. Et ensuite, quand Martin Luther est arrivé sur la scène, voyant l'Esprit de Dieu le conduire là, au lieu de laisser les gens libres, il a organisé l'Église. Une image semblable à la bête, une puissance politique semblable à elle. Au lieu de laisser les gens avancer, au fur et à mesure que Dieu donne la lumière, ils se sont organisés selon une discipline. Ils doivent s'en tenir à cette discipline. Dieu s'est déplacé tout droit dans l'Église méthodiste. Les méthodistes ont eu un réveil qui a balayé le monde entier. Le Saint-Esprit les accompagnait, enseignant la sanctification. Et voilà que lorsqu'ils ont fait ça, alors ils ont organisé une église. Ils ont fait une image à la bête, c'est vrai. Une puissance politique organisée pour lier le peuple de Dieu à un credo. Au lieu d'être libre d'adorer et de marcher dans la lumière, au fur et à mesure que la lumière était répandue sur leur sentier, ils étaient empêchés d'avancer dans cet âge-là. C'était une bonne lumière pour cette époque-là. C'était la lumière pour l'Église de Pergame. Mais qu'en est-il de l'Église de Philadelphie? C'est une autre lumière. Mais voyez-vous, peu importe combien ils se sont organisés, Dieu est tout de même intervenu dans cet âge de l'Église-là. De toute façon, il a envoyé un homme du nom de John Wesley. Luther n'a pas pu suivre cela parce qu'il n'y croyait pas. Il était déjà organisé là. Puis John Wesley s'est organisé si fermement qu'il en est arrivé à un point où c'était le moment pour cet âge de l'Église là d'entrer en scène. Dieu a envoyé le groupe pentecôtiste. Il est allé là avec le baptême du Saint-Esprit. Oh, les méthodistes ont dit, nous ne pouvons pas accepter cela. Non, non, nous ne croyons pas ces choses-là. Oh non, pourquoi? Ceci, c'est la lumière dans laquelle ils marchaient ici. Voici la lumière pour ici maintenant. Nous avançons vers le coucher du soleil. Vous vous souvenez de ce que le prophète a dit? Ce sera un jour nuageux, qui ne sera ni nuit ni jour. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière qui brillait autrefois dans le pays oriental pour les Juifs, en Orient. Les Juifs sont un peuple de l'Orient. Elle brille sur les gens des nations. La même lumière, le même Saint-Esprit, dans les derniers jours, ici. Le même baptême de l'Esprit. Nous avons traversé tous ces âges, ici, où ce n'est ni un temps de lumière, ni un temps de ténèbres, mais un jour nuageux, sombre. Mais ici même, alors que la lumière a brillé exactement de la même manière que là-bas. C'est pourquoi il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. La racine et la postérité de David, l'étoile du matin. Voilà, c'est ça. J'espère que vous le voyez. Et souvenez-vous, nous avons vu, sans qu'on puisse se méprendre, que la marque de la bête est une marque d'apostasie. C'est-à-dire que les membres d'église restent attachés à leur église au lieu de marcher dans la lumière. Ils rejettent la lumière et ne restent plus que les ténèbres. C'est vrai, aussi bien les catholiques que les protestants. Il y avait une bête, une prostituée, et elle a des filles prostituées. Et ces filles prostituées, quand elles sont apparues, elles étaient des vierges qui venaient de la lumière de ce jour-là. Et elles se sont organisées et elles ont amené les gens ici, les ont ramenés ici, faisant d'eux le même genre de choses que Rome était au commencement. La Bible dit, la bête est une image à la bête, la lettre de son nom, et ainsi de suite. Nous avons passé en revue tout ça hier soir, et la Bible, clairement, pas la théorie de quelqu'un, mais la Bible a exposé cela, que cette bête a 7 têtes, il y a 10 cornes, de Rome était là à Rome, et c'était celui qui était, qui n'est plus, et qui est, et qui n'est plus. Un pape après l'autre, un pape après l'autre, et il ira à la perdition. Et nous voyons que cette même femme a mis au monde des filles. Elles étaient vierges au départ. Elles marchaient dans la lumière qu'elles avaient. Puis, elles se sont mises à agir comme des prostituées. Et elles sont allées faire la même chose que leur maman. Exactement, exactement. Laissez-moi vous dire quelque chose, les femmes. Écoutez, il se peut que vous n'ayez pas beaucoup confiance en moi maintenant, que je proclame ces choses à grands cris. Et ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour vous aider. Mais quand vous voyez des gens, les églises aujourd'hui, qui permettent aux femmes... Bon, je vais aussi en venir aux hommes, mais qui permettent aux femmes de se comporter comme elles le font aujourd'hui. Elles professent le christianisme. Je ne vous blâme pas, vous les femmes, je le ferai après ce soir. Mais écoutez, je ne vous blâme pas, vous les femmes, maintenant. Mais, ma sœur, beaucoup de ces professeurs de séminaire ici, ou de ces professeurs de cimetière, ou quel que soit le nom que vous donnez à ça, d'ici quelque part, ils voulaient simplement marcher dans ces illusions. La Bible dit qu'ils étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. C'est vrai. Bon, et Jésus, en voyant ceci, et sachant que certaines de ces églises protestantes s'avanceraient tout droit vers la porte de la lumière et qu'elles se détourneraient, Jésus, dans Matthieu 24:24, a dit que ce serait tellement, que l'Antichrist serait tellement proche du vrai, que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Maintenant, vous voyez, le romanisme, le catholicisme, oh, ça a frappé certains d'entre vous très fort, les protestants. Mais un homme qui a un peu de grâce en lui, un peu, qui connaît un peu la Bible, il évitera la chose et s'en éloignera. C'est vrai, pour lui, l'attrait de cette chose est nocif. Il sait qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Toutes ces choses qu'ils enseignent, il n'y a aucun passage de l'Écriture pour appuyer ça. De temps en temps, ils ont raison sur quelques points. Le plus grand mensonge qui ait jamais été dit contenait beaucoup de vérité. C'est vrai, le premier mensonge, Satan qui parlait à Ève, il a dit beaucoup de vérité, mais il avait comme le fin fond de l'histoire, c'est qu'il avait un mensonge qui l'a condamné et qui a détruit la génération en entier, la création en entier. C'est vrai. Il faut surveiller ça. Il faut que ce soit la vérité ici et la vérité ici, la vérité ici et la vérité là. Chaque parcelle, c'est la vérité. Il faut que tout s'aligne de la même manière, d'un bout à l'autre. Et puis, les gens peuvent voir que l'église primitive, là-bas, était éclairée par ce porte-lampe, ce chandelier, et ensuite, de ce côté-ci, voir arriver la même chose que ce qui s'est passé là-bas. Et la parole de Dieu qui dit que ce serait Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et refuser cela, cela montre qu'ils ont rejeté la lumière et qu'ils marchent dans les ténèbres. La seule chose qui reste. C'est vrai, mon frère. Je ne dis pas ça pour faire le malin. Dieu le sait. Il connaît mon cœur. J'ai un ministère et il y a encore beaucoup de choses devant moi. Et je sais qu'un jour, au tribunal du jugement, je répondrai de ces choses. C'est tout à fait vrai. Si j'étais trouvé calomniateur, faux docteur, alors Dieu me condamnerait. C'est vrai, mais si je connais la vérité de ces choses et que je ne vous le dis pas, alors il me condamnera, assurément. Il a dit à la sentinelle, sois aux aguets. Si tu négliges d'avertir le peuple, alors je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le peuple et qu'il va de l'avant, il mourra dans son péché, mais je ne te redemanderai pas son sang. Tu seras libre. Donc, nous voulons veiller à connaître ce qui est la vérité, selon la Bible, et comment cet âge-là a commencé, et ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, de voir ce à quoi l'Église protestante aboutit, exactement. Regardez ici, autrefois, il y a longtemps, et vous, les gens de la sainteté, c'était mal pour vous, les femmes, de vous couper les cheveux. Qu'est-ce qui est devenu juste à ce sujet? Alors que la Bible dit que, si une femme se coupe les cheveux, son mari a le droit de divorcer d'avec elle. C'est clair comme enseignement, mais c'est la Bible. Et vous, les femmes, qui sortez et tondez votre gazon, vêtues d'une salopette, portant des vêtements d'homme. Et la Bible dit, le Dieu Tout-Puissant dit, une femme qui met un vêtement d'homme, c'est une abomination, une souillure aux yeux de Dieu. Et vous le faites. Et vous fumez la cigarette, vous allez à des soirées dansantes, et à des spectacles, tout en étant membre de l'Église. Vous montrez que vous avez pris une espèce de quelque chose. Vous n'êtes pas marqué au ciel par le Saint-Esprit. Un peu plus tard, nous y reviendrons et nous vous montrerons que c'est différent. Bon, ça, ce n'est qu'une petite chose. Et vous, les hommes, vous allez à l'église en marchant dans la rue, un cigare au bec. Vous faites penser à un bœuf écorné du Texas. Et vous, je ne dis pas ça pour plaisanter. Je ne crois pas que la chair est un endroit pour plaisanter. Je dis que c'est la vérité. Ils descendent la rue, ils vont s'asseoir quelque part. Et ils montent, ils volent, ils se trompent les uns les autres. Et ils font partie du conseil des diacres de l'église. Ils vont à l'église pour faire ces parties de loto. Ce n'est rien d'autre qu'une loterie vulgaire et méprisable. C'est vrai, et vous le faites. Et ensuite, vous poussez de hauts cris au sujet d'un preneur de paris. Vous êtes tout aussi mauvais dans vos églises. Vous, les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes, qui que vous soyez, vous qui faites ça, c'est vrai. Et vous savez que c'est la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Vous faites exactement la même chose que votre maman de l'époque. C'est exactement la même chose. Et la poêle ne peut pas se moquer du chaudron. Et il y a cet esprit des choses. Mais je n'ai rien contre les catholiques. Je n'ai rien contre les méthodistes ou les baptistes ou les presbytériens. Dieu a des gens, les semences d'Abraham, là-bas. Ce n'est pas contre les gens. Il s'agit de leurs églises. Elles s'organisent là-bas et elles adorent l'église au lieu d'adorer Dieu. Oh, vous les protestants, vous ne voulez pas croire ça. Mais vous agissez comme ça quand même. Je dirais, êtes-vous chrétien? Eh bien, ici, il n'y a pas longtemps, frère Bosworth a demandé à une jeune fille. Il a dit, êtes-vous chrétienne? Elle a dit, une chrétienne? Sachez que je fais brûler un cierge tous les soirs. Eh bien, vous les protestants, vous pensez que c'est quelque chose? Êtes-vous chrétien? Sachez que je suis méthodiste ou baptiste. Eh bien, pour moi, ça ne veut rien dire d'autre que vous êtes sorti de votre jour de grâce. C'est vrai, si c'est tout ce que vous êtes, juste un méthodiste ou un baptiste. Si vous n'êtes pas chrétien dans cette église méthodiste ou baptiste ou catholique, vous êtes perdu. C'est vrai. Donc, voilà exactement votre marque. Les deux marques sont spirituelles. Maintenant, je vais vous le prouver par la Bible. Les deux marques sont des marques spirituelles. Beaucoup de gens se sont dit, ils vont se promener et vous tatouer quelque chose sur le front et tatouer quelque chose sur votre main. Nous avons découvert hier soir que c'était un mensonge. Oui, monsieur, c'est faux. C'est une marque spirituelle. C'est tellement caché. Et regardez, bien des fois, bon, je sais que ceci peut froisser des gens et que cela semble dur, mais ça redressera les choses si seulement nous et donnons une petite chance à Dieu. Je ne veux pas être blessant, mais j'essaie simplement d'énoncer des faits de tout mon cœur. Quand Jésus-Christ a vu cette église protestante se retirer de l'église catholique là-bas, en sortir et revenir tout droit, redevenir exactement à ce qu'elle était, il a dit, l'Esprit sera tellement proche qu'il séduirait même les élus. Êtes-vous conscient, mes amis chrétiens, que l'Antichrist qui est la marque de la bête? L'Antichrist, tout le monde sait ça. L'Antichrist c'est sa marque et de sa puissance. Et voyez-vous, une bête, c'est une puissance. Il y a une puissance de l'Église catholique. Il y a une puissance de l'Église méthodiste. Je suis allé il n'y a pas longtemps chez un très brave homme. Si je ne me trompe pas, il est assis ici même dans l'église ce soir. Et la petite Edith Wright et les autres sont venus à la réunion près d'ici, à moins de 30 kilomètres d'ici. Et nous, les gens, je prêchais l'évangile du salut, c'est tout. Nous avons dû grimper sur les voitures pour nous rendre sur les lieux. Et ce soir-là, le pasteur m'a appelé directement. Il a dit, « Je suis désolé de vous le dire, révérend Branham, mais ils m'ont dit qu'ils avaient fait venir des malades à l'intérieur. » Et notre responsable régional est venu et a dit, « Pas de guérison divine dans l'église méthodiste. Alors, vous devrez monter sur l'estrade, dire que vous partez et quitter l'assemblée. » C'est vrai. Pourquoi? La puissance de l'église méthodiste, c'est la puissance de la bête. C'est pareil pour l'église baptiste, les campbellites, les luthériens et tous les autres, et les pentecôtistes, tout aussi mauvais. C'est vrai. J'ai eu des pentecôtistes et les assemblées de Dieu sont entrées dans le conseil des églises, qui est un, elles se sont simplement alliées, juste là, avec la vieille mère prostituée. Donc, chaque organisation d'église vient de Rome. Voilà la mère de chacune d'elles. Et je ne fais pas partie des saints du dernier jour, ou de la pluie du dernier jour, ou quel que soit le nom que vous donnez à ça. Je ne veux pas, je ne suis rien de tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes devraient être libres en Jésus-Christ, de marcher dans la lumière. Et ça devrait être la même chose dans chaque église. C'est vrai. Maintenant, remarquez ceci. Comment la Bible, saisissez-le, cette organisation, souvenez-vous, c'est là qu'elle se trouve, en plein là. Et nous voyons que, quand l'Église catholique a commencé là-bas, ils ont adopté un faux baptême. Ils aspergeaient au lieu de baptiser. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture dans la Bible pour appuyer cela. Et pas seulement ça, mais le Saint-Esprit et le baptême d'eau et les rites et les titres et tout le reste. Elles ne font que produire une imitation grotesque du vrai. Et il n'y a pas un seul ministre dans le pays qui puisse montrer un seul endroit où cela ait jamais été fait dans l'Église primitive. C'est vrai, ce n'est pas dans la Bible, mais ils ont adopté cela, et nous nous soumettons à cela. Vous voyez à quoi nous retournons, tout droit? Et aujourd'hui, on se demande pourquoi nous n'avons pas de réveil. Voilà ce que c'est, frère. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon réveil à l'ancienne mode, comme celui de saint Paul, que le Saint-Esprit de la Bible soit de nouveau dans le pays. C'est de ça que nous avons besoin. Maintenant, et ils ont pris la marque de la bête, ou la lettre de son nom, à laquelle ils ont fait une image. L'image, c'était l'organisation, tout comme l'Église catholique. Ils l'ont organisée et ont fait une image de l'Église catholique. Est-ce que l'Église méthodiste en est une image? L'Église baptiste, l'Église presbytérienne, l'Église pentecôtiste, l'Église de la sainteté, les pèlerins de la sainteté, les frères unis, tous ceux qui se sont organisés ont pris exemple sur eux. Ça n'a jamais été dans la Bible de Dieu. C'est vrai, les organisations, formez une organisation. Dieu est le conducteur. Examinez ça aussi loin que vous le voulez. Regardez Israël qui sortait de l'Égypte et tous ces Moabites qui étaient là-bas, des fondamentalistes qui offraient des sacrifices. Sept autels, sept chais, sept brebis, ce qui annonçait la venue de Christ. Sept bœufs, une offrande pure. Juste là, son grand prophète qui était là, Balaam, pour maudire Israël. Et Israël était là, Moab était là, une grande nation. Les Amoréens étaient là, et tout, une grande nation, organisée ensemble, en tant que nation. Et Israël était dispersé là-bas dans les prairies, avec beaucoup de tentes. Ils étaient des pèlerins et des étrangers qui cherchaient une ville à venir, strictement interdénominationnelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des signes et des prodiges qui les accompagnaient. Ceux-ci n'en avaient pas, et ils étaient jaloux de ceux-là. C'était des esprits. Dieu reprend son homme, mais jamais son esprit. Il a pris Élie, et son esprit est venu sur Élisée. Plusieurs centaines d'années plus tard, c'est venu sur Jean-Baptiste, et s'est prédit de nouveau au dernier jour. Le diable reprend son personnage, mais jamais son esprit. Ce même docteur religieux qui a condamné Jésus-Christ à cause de ses miracles, de ses signes et de ses prodiges, et qui était en désaccord avec lui sur l'Écriture, a été assez direct pour venir lui en parler. Ce même esprit vit dans les docteurs ecclésiastiques aujourd'hui, destinés par Dieu à subir cette condamnation. C'est ce que la Bible dit. Les hommes d'autrefois, désignés d'avance à cette condamnation, pour avoir changé la grâce de notre Seigneur en dissolution. C'est tout à fait vrai. Dans Jude, le verset 3 de Jude, vous pouvez le trouver. C'est vrai. Remarquez toutes ces choses qui prouvent là que la marque de la bête existe. Voilà où c'est. Alors, quand vous allez partout en disant, « Eh bien, je vous le montrerai quand la marque de la bête viendra. » Faites attention que vous ne l'ayez pas déjà. Et ceux qui l'auront seront châtiés dans le feu et le soufre, versés dans la coupe de la colère de Dieu, et seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'est quelque chose de sérieux. Maintenant, quel est votre échappatoire? Il y aura un temps qui vient maintenant même. Remarquez, et dans cette organisation qui avance, maintenant, permettez-moi de vous donner un petit indice ici, dans cette organisation qui avance comme ça. Il viendra un temps où vous devrez faire partie de cette organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Ou vous aurez cette marque de l'apostasie, la marque de l'Église. Vous devez faire partie d'une organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Et écoutez, vous qui savez ce qu'est la vérité, je ne dis pas de vous éloigner de votre Église. Je ne dis rien contre votre, sur vous ou sur vos membres. Je parle du quartier général, là-bas, quand ils ont organisé la chose et qu'ils ont décrété « nous allons faire ceci, nous allons faire cela ». Et ils ont établi cette règle stricte. Et Dieu met cela en pièces et il fait complètement sortir son Église de ces choses. Il l'a toujours fait. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils faisaient route, ils ont fait un feu. Ils restaient là tous les soirs. La colonne de feu était suspendue au-dessus d'eux. Et peu m'importe quelle était l'heure du jour ou de la nuit où cette colonne de feu se déplaçait. Les trompettes sonnaient et Israël pliait bagages et partait. S'il était minuit, 2 heures de l'après-midi, quelle que soit l'heure, ils pliaient bagages et suivaient la colonne de feu. Pas vrai? Ils suivaient le feu. Eh bien, quand Martin Luther a vu le feu de Dieu se déplacer, Martin Luther est sorti en suivant le feu hors du catholicisme. Mais il a bâti juste là et a organisé son église. Et il ne pouvait plus se déplacer. Le feu a continué de se déplacer et Wesley l'a vu et il est parti à sa poursuite. C'est vrai, le feu de Dieu a laissé Luther en plomb. Alors, sans tarder, Wesley a bâti sous cela l'église méthodiste wesleyenne. Ensuite sont venus Alexandre Campbell, John Smith avec les baptistes, et ainsi de suite, comme ça, et Moody et tout ça. Alors, sans tarder, ils ont commencé à devenir ritualistes, empesés et froids, quand les vieux prophètes sont morts, et ainsi de suite. Ce nouveau groupe n'est arrivé avec rien d'autre qu'une instruction de séminaire. Et puis, bientôt, ils se sont mêlés à tout ça et ont tout gâché. Le Saint-Esprit s'est retiré, et les pentecôtistes l'ont vu, et les voilà partis. C'est vrai, ils ont continué à avancer. Ils se sont éloignés des méthodistes et des baptistes, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est cruel, c'est que pour accomplir la parole de Dieu, les pentecôtistes se sont organisés. Et ils sont tout aussi froids et ritualistes que les autres. Mais regardez, il n'y aura jamais un autre âge de l'Église. Le dernier âge, c'est l'âge de l'Église de Laodicée, qui n'est ni chaud ni froid. Juste assez de religion quand la musique joue pour danser dans l'allée et ensuite s'asseoir, rentrer à la maison et parler de son voisin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un brûlage du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu, un réveil qui vous fera tomber sur votre face et crier jour et nuit et pleurer et gémir et faire toutes ces choses à cause des péchés du monde. Nous allons y venir, c'est vrai, mais les voilà. Voilà où nous en sommes, tiède. Dieu a dit, ça me fait mal au ventre. Je vais simplement te vomir de ma bouche. C'est l'Église protestante, rejetée. L'Église protestante est rejetée, de la Pentecôte à Luther, d'un bout à l'autre. La parole de Dieu le dit. Mais de chacune de ces églises, il a pris un élu. Il a fait sortir la semence de chacune d'elles, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, tous ceux-là, les catholiques et tout. Il a pris un reste, il a fait sortir un peuple. Il n'y a pas longtemps, une petite dame était couchée ici même à Louisville, une catholique qui se mourait. Je suis allé là-bas et le prêtre a dit, une chose pareille, c'est un non-sens. Et son mari a dit, écartez-vous, laissez-le entrer. Je suis entré là, et cette femme était censée mourir le lendemain matin. Pendant que je priais pour elle, une vision est apparue, et j'ai dit, ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, le lendemain matin, je lui ai dit dans combien d'heures exactement elle retournerait à la maison rétablie. Les gens s'en sont moqués, et à l'heure même que le Saint-Esprit avait prononcé, elle est rentrée chez elle, une femme en bonne santé. Et elle est en bonne santé aujourd'hui. Elle était catholique. Ils étaient catholiques. Ils étaient catholiques. Quand vous recevez la lumière dans l'Ancien Testament, je vais vous montrer la marque maintenant. Écoutez attentivement. Ensuite, je vais passer directement à mon sujet. Regardez, dans l'Ancien Testament, quand un esclave était en esclavage et qu'ensuite on l'avait acheté là-bas, on avait payé le prix d'achat. Il devait servir ce maître jusqu'à l'année du jubilé. Et quand l'année du jubilé arrivait, une trompette sonnait. Et quand l'esclave était là-bas, lui et ses enfants, sa femme et tous ceux qui voulaient retourner dans leur vieille patrie, ils travaillaient dans les champs. Et le chef de corvée les battait, comme ceci et comme cela. Donc, quand le sacrificateur du jubilé passait, qu'il sonnait de la trompette, ce sacrificateur sonnait de la trompette, et cet homme, il entendait la trompette. Alors, il pouvait laisser tomber sa binette, il pouvait laisser tomber tout ce qu'il faisait. Regardez le chef de corvée en face et dire « Tu ne peux pas me frapper une fois de plus, je suis libre » et s'éloigner tout de suite en marchant et rentrer à la maison. Pourquoi ? C'était la trompette qui sonnait le jubilé quand on entendait ce son. Et c'est ça, l'évangile, le jubilé. Vous êtes affranchis du péché. Vous êtes libérés de toutes ces habitudes dégoûtantes et de toutes ces choses que le monde a produites ici au nom de la religion. Sous le protestantisme et le catholicisme, sous la marque de la bête. C'est vrai, vous êtes libérés. Vous n'avez pas à l'être. Mais alors, si cet homme refusait de recevoir cela, alors cet homme était emmené de là au poteau de l'autel de l'église. Et on lui faisait une marque, on lui perçait un trou à l'oreille. Et il était un serviteur de ce maître aussi longtemps qu'il vivait. Et si vous refusez d'accepter la lumière de l'évangile, quand elle est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit, par la Bible, vous pouvez vous sceller à votre destination éternelle. Amen. Maintenant, regardez, encore une petite chose, si vous voulez bien m'excuser d'avoir fait cette remarque il y a quelques instants, au sujet de l'homme. Mais regardez ici, séduirait même les élus. Maintenant, nous avons tapé sur les luthériens, les baptistes et ainsi de suite, et les catholiques. Maintenant, je vais m'adresser à vous, les gens de la sainteté, juste un instant. Voyez, je crois à la sainteté. Vous devez être saint. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Pas ma sainteté, sa sainteté. Et je ne peux rien y faire. Il s'agit de ce qu'il a fait pour moi. Ne vous reposez pas sur la mienne, car je n'en ai pas. N'essayez même pas d'en avoir. Je n'essaie pas de l'être. Essayez-vous de tenir bon, frère Branham? Non, monsieur. Je lâche simplement prise et je le laisse lui tenir bon. C'est vrai, c'est lui qui tient bon. Restez simplement mort. C'est tout ce que vous avez à faire. Restez simplement mort. Il tiendra bon. Il a déjà tenu bon. Là, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il dise. Tout est accompli. C'était réglé. Dieu nous laisse faire la même chose. Tout est accompli. Mais, gens de la sainteté, vous, les Nazaréens et les pèlerins de la sainteté, souvenez-vous, sous la puissance et votre sortie de l'église de Wesley ou de l'église méthodiste, quand ils se sont organisés, vous, chers gens de la sainteté, vous êtes sortis en disant, nous continuerons à être dans la sainteté. C'était merveilleux. Vous avez continué dans cet âge-là, cet âge de Philadelphie, jusqu'à ce qu'il arrive à celui de Laodicée. Mais quand le baptême du Saint-Esprit est venu et que les signes sont revenus dans l'église, vous avez appelé ça le diable. Parce qu'il parlait en langue et croyait à ces choses, vous avez dit, c'était du diable. Et quand vous avez fait ça, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Comment puis-je dire à ma main, je n'ai pas besoin de toi? S'il y a des enseignants, il y a le parler en langue. S'il y a des évangélistes, il y a aussi des dons de guérison. Comment le pied peut-il dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi? Voyez, vous, si vous êtes un enfant né de Dieu, vous marchez et vous acceptez tout ce que Dieu dit être juste. Vous marcherez directement dans la lumière. Quand le moment est venu pour l'Église d'agir, Luther a agi. Quand est venu le moment pour l'Église de bouger sa main, Wesley a bougé la main. Quand le moment est venu pour l'Église de parler, les pentecôtistes sont entrés en scène. C'est vrai, mais maintenant, remarquez. Vous dites, et un type? Vous dites, y a-t-il un type de cela? Oui, monsieur. Vous rendez-vous compte que Judas Iscariote, le véritable Antichrist, était un homme très religieux? Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Ils avaient tellement confiance en lui, les frères, qu'il était le trésorier de l'Église. Et Judas Iscariote a été justifié par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Il a été sanctifié par la parole. Hébreux 17:17. Je veux dire Jean 17:17. Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Et il était la parole. Et il aurait été donné le pouvoir d'aller prêcher l'évangile, de chasser les démons et de guérir les malades. Judas Iscariote, Matthieu 10, a été mentionné parmi eux. Et ils sont allés chasser les démons. Ils ont prêché l'évangile d'une manière telle que les pécheurs se sont repentis et que les démons sont partis. Et ils sont revenus en se réjouissant et en poussant des cris. Ils ont passé du bon temps, comme un petit rassemblement en campement des gens de la sainteté. Et Judas était là avec eux. C'est tout à fait vrai. Il allait avec eux. Mais quand est venu le temps de la Pentecôte, Judas s'est montré sous son vrai jour. C'est là que l'Église de la sainteté s'est montrée sous son vrai jour, juste là. Et ils ont fait demi-tour et ont rejeté le Saint-Esprit même qui les conduisait dans des eaux plus profondes. Ils ont fait demi-tour et l'ont rejeté. Je sais qu'ils ont beaucoup de fanas. Je ne suis pas pentecôtiste. Je n'ai jamais fait partie d'une organisation pentecôtiste. Jamais. Je me suis tenu dans la brèche. Je ne suis pas pentecôtiste, méthodiste, baptiste. Je ne suis qu'un chrétien selon la Bible. C'est tout. Je crois ce que la parole dit. Et je ne peux pas nier le don du parler en langue. Si je le fais, je nierai l'enseignement et tout autre don inspiré. C'est vrai, je n'ai jamais été d'accord avec les frères pentecôtistes sur la seule preuve du parler en langue. Je ne fais pas ça. Bon, c'est très bien s'ils le croient comme ça. C'est leur affaire, vous voyez, mais c'est parfaitement en ordre. Paul a dit, je désire que vous parliez tous en langue. J'aimerais que tout le monde soit aussi proche que ça de Dieu. Ils ont beaucoup de choses fabriquées, beaucoup de fausses croyances. Bien des fois, ils sont allés là et ont agi comme s'ils avaient le Saint-Esprit. Et on dit quelque chose qui n'était pas le parler en langue. Leur vie prouvait ce qu'il en était. Mais il y a un élément vraiment authentique qui a quand même continué d'avancer tout le temps. Eh bien, pourquoi le diable ne lancerait-il pas un bel appât à Corneille? Bien sûr qu'il le ferait, pour essayer de faire obstacle. Il a lancé la même chose chez ceux de la sainteté. Il a lancé la même chose aux méthodistes. Il a lancé la même chose du temps de Luther. Et lance la même chose aujourd'hui. Et alors qu'on a le pouvoir des dons, de la guérison divine et du discernement, il lance les mêmes choses. Mais qu'est-ce qu'un épouvantail signifie pour vous si vous pouviez parler le langage des oiseaux? Les oiseaux disent, quand je vois un épouvantail, c'est un coupon repas. Les meilleures pommes qui existent, elles sont là où se trouvent tous les gros bâtons et là où les épouvantails sont accrochés. C'est vrai. Mais vous voyez comment cet esprit s'est déplacé jusqu'ici. Et Jésus a regardé et a vu cela d'avance à travers l'Église catholique qui allait sortir. Il a dit, n'appelez personne père, ne multipliez pas de vaines paroles, toutes ces choses. Il est venu et a dit, maintenant, faites attention. L'Antichrist sera tellement proche qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Écoutez, frères, combien de vierges sont allées à la rencontre du Seigneur? 10. Elles étaient toutes vierges. Que signifie sanctifié, pur, saint, vierge? 10 d'entre elles étaient vierges. 5 n'avaient pas d'huile dans leur lampe. 5 avaient de l'huile dans leur lampe. Ces 5-là étaient tout aussi saintes et vierges que celles-là l'étaient. Mais que représente l'huile dans la Bible, là où nous l'avons vu hier soir, le soir précédent? L'Esprit, le Saint-Esprit. Elles se sont lavées et se sont assises là, mais elles ont eu peur et se sont tenues en retrait de la source qui déversait l'huile. Vous voyez, elles se sont organisées et sont restées là. Et les voilà, tièdes. C'est là que l'âge de l'Église s'est retrouvé. Bon, maintenant nous arrivons à la marque de Dieu. J'ai 30 minutes, si le Seigneur le veut. Maintenant, d'abord, je veux que vous preniez avec moi pour voir combien cette marque de Dieu est essentielle. Souvenez-vous de ce qu'est la marque de la bête, pas le communisme. La marque de la bête vient de Rome et est répandue dans le monde entier. Le catholicisme, auquel s'est joint le protestantisme, a organisé la religion et ils vont syndiquer les églises, au point que toutes les églises devront se plier à cette chose-là. Nos interdénominations sont rejetées et mises à l'écart. C'est vrai. Apocalypse, chapitre 9, maintenant. Lisons très attentivement pendant quelques instants, si Dieu le veut, et voyons ce qu'il a dit dans sa parole. Maintenant, de l'Apocalypse, et le verset 4, écoutez ceci. « Et il leur fut dit, quand ils ont vu les fléaux se déverser, de ne point faire de mal à l'herbe ni aux arbres, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Mais aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » Quand les fléaux arrivaient, les seuls qui étaient protégés, c'était ceux qui étaient scellés et mis à part dans le royaume de Dieu. C'est l'enquête pour le jugement. Quand les hommes, et si Dieu veut bien m'aider, dans quelques minutes, nous le prouverons par la parole du Seigneur, que c'est maintenant le temps où le scellement est fait, et ceux qui rejettent cela, il ne leur reste plus que le châtiment éternel. Maintenant, nous irons dans l'Ancien Testament, et prenons ici, si vous le voulez bien, le livre d'Ézéchiel, si vous le voulez bien, et lisons un peu dans Ézéchiel 9. Maintenant, avec l'aide de Dieu, maintenant, puisse-t-il nous aider? Et préparons-nous maintenant pour l'enseignement, pendant les 30 prochaines minutes, si Dieu le veut. Maintenant, ceci se rapporte, vous le notez, Ézéchiel 9. C'est ce qui se rapporte. La première chose que nous devrions régler maintenant, c'est qu'est-ce que le sceau de Dieu? Ne pensez-vous pas que ce serait essentiel? La Bible est-elle une parole assez bonne pour vous? Bon, je sais que vous avez ça. Ceux qui disent que c'est observer le jour du sabbat. Mais il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça dans le Nouveau Testament. Voyons ce qu'est le sceau de Dieu, bien sûr. Prenez Éphésiens 4:30. 4:30 et 1:13. Notez-le. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Or, qu'est-ce que le scellement signifie? Le scellement est un signe d'achèvement, pas vrai? Eh bien, avez-vous déjà vu un cheminot chargé des wagons? Il va déposer une certaine quantité de choses ici et une certaine quantité là. L'inspecteur vient, il regarde à l'intérieur. Si ceci n'est pas fixé assez solidement, si c'est branlant, non, je ne le scellerai pas. Il faut défaire tout ça et recommencer. Ensuite, il essaie de le charger de nouveau. Il fait telle chose de travers. L'inspecteur vient, c'est de travers. Recommence. Et c'est ce que Dieu fait avec son Église depuis longtemps. Vous chargez tout, vous en allez au ciel. Vous emportez tout avec vous. Vos jeux de cartes, tout ce que vous pouvez charger dans l'Église, vous essayez de l'emporter avec vous. Dieu condamne tout ça. Voilà, pas prêt à être scellé. Mais quand Dieu voit un homme avec un esprit brisé, contrit, au cœur sincère, prosterné devant l'autel, Dieu ferme la porte du monde derrière lui et le scelle à l'intérieur par le baptême du Saint-Esprit qui durera jusqu'à ce que Jésus vienne. Pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Quand ce wagon de marchandises, que la porte est fermée et que le sceau du gouvernement y est apposé, il ne peut plus être ouvert tant qu'il n'a pas atteint sa destination finale. Et tout homme qui est né de nouveau et scellé dans le royaume de Dieu n'a plus aucun désir du monde jusqu'au jour où Jésus-Christ l'emmène dans le royaume. Donc, si vous avez des problèmes et que vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous soyez membre de l'Église méthodiste, de l'Église baptiste, de l'Église pentecôtiste, que vous ayez poussé des cris, parlé en langue, que vous ayez été baptisé vers l'avant, vers l'arrière, aspergé, si vous avez encore ce genre de problème, vous feriez mieux de revenir vérifier votre chargement. C'est vrai, vous emportez trop de choses avec vous. Ce n'est pas fixé assez solidement, c'est branlant. Dieu ne le scellera pas comme ça. Quand un grain de blé tombe en terre, peu importe, si ce grain de blé meurt à lui-même, il ne peut pas produire de gratteron, même si sa vie en dépendait. Un grain de blé produira un grain de blé, c'est sûr et certain. Et si nous sommes ensemencés par la semence incorruptible de Dieu, comment peut-elle produire autre chose qu'une vie comme la vie de Christ? Le Saint-Esprit conduit l'Église. Il la conduit dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est la Bible. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Éphésiens 4:30. Maintenant, avant même que le Saint-Esprit vienne, il a été scellé et mis à part avant même que l'âge des nations commence. Il était scellé et mis à part sous ses chandeliers d'or. Nous avions fait un schéma pour le comprendre. Là, sous cet âge-là, il a continué à les duper tout au long du temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, et tout au long de l'âge des ténèbres, qu'ils ont eu du temps d'Akab, et ainsi de suite, Salomon, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aboutisse à cet état de tiédeur. Mais juste avant de fermer cette dispensation-là, il a donné une glorieuse vertu du Saint-Esprit uniquement aux Juifs. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Pas vrai? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir descendants de Dieu. Il a dit, « Je leur donne la vie éternelle ». La vie éternelle vient du mot grec « zoé ». Zoé est cette vie. Zoé est la vie de Dieu. Et si la vie de Dieu vit en vous, cela produit une vie sainte, aussi certain que je me tiens sur cette estrade. Et l'homme qui l'a reçu ne peut pas plus périr que Dieu ne peut périr, parce que Dieu est dans l'homme. Amen. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. C'est sa parole. Quelle consolation pour le croyant et quel jugement pour ceux qui refusent de marcher dans la lumière. Il commence à faire chaud, n'est-ce pas? Très bien. C'est bon pour vous. Remarquez. Voyez si ceci est vrai. Père, nous pourrions prendre cela, écriture après écriture, semaine après semaine, semaine après semaine, et rester là-dessus. Tout à fait, le même sujet, pendant un an, et quand même ne pas extraire ça de la Bible. Tout ça, et rester sur le même sujet. Maintenant, juste un petit préliminaire ici. Nous allons retourner voir ce que le rejet du baptême du Saint-Esprit signifie pour vous, ce que cela signifiait pour eux à l'époque. Là, dans Ézéchiel chapitre 9, le prophète a vu Jérusalem. Maintenant, souvenez-vous, nous parlons de cette époque-là, les Juifs, juste avant leur fin. Maintenant, nous sommes au jour des nations, à sa fin. Ensuite, nous entrons dans le millénium. Très bien. Mais maintenant, regardez bien, on voit la fin des Juifs là. Le prophète voit cela d'avance. Il reste encore 100 ans, environ 800 ans, avant la venue du Seigneur. Et cela avait été prophétisé par le prophète. Maintenant, écoutez attentivement pendant que nous lisons. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, et chacun un instrument de massacre ou instrument de destruction à la main. » Maintenant, soyez bien attentifs, là, pendant que nous lisons. Et voici, 6 hommes arrivèrent par la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de massacre à la main. Il y avait au milieu d'eux l'homme portant des vêtements blancs, vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer devant, près de l'autel d'airain. La gloire de l'Éternel Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Écoutez. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, la destination à Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de les abominations qui s'y commettent. Et alors, à mon oreille, il dit aux autres, « Passez après eux dans la ville et frappez, et que votre œil soit sans pitié. » Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quelqu'un qui aura sur la marque. Et il commence par le sanctuaire. Et commençons par les anciens qui étaient devant la maison. Maintenant, observez le prophète dans l'esprit, élevé dans la gloire. Dieu a dit, je vais vous montrer comment je vais régler la question avec les Juifs, avant de venir vers ceux des nations. Lisez le verset ou le chapitre qui le précède. Maintenant, quand il est entré là, il a dit, je vis. D'abord, il a vu le péché dans la ville, comme il ne l'avait jamais vu auparavant, et il a vu Jérusalem. Maintenant, souvenez-vous, c'était destiné uniquement aux Juifs, pas à ceux des nations. Les Juifs et leur capitale, Jérusalem. Tout comme hier soir, nous avons vu que c'était destiné aux protestants. Maintenant, ce soir, c'est pour les Juifs. Il a dit, « Passez dans la ville. Voilà des hommes qui arrivent, des instruments de destruction à la main. Ils s'avancent pour massacrer tout ce qui se trouve dans la ville. » Il a dit, « Maintenant, attendez, juste un instant. » Et de là est sorti un homme vêtu de blanc. Arrêtons-nous un instant. Vêtu de blanc, la justice, la sainteté, vêtu de blanc. Portant une écritoire à sa ceinture. Il a dit, « Passe d'abord dans la ville, avant qu'ils arrivent, et fais une marque sur le front, une marque sur le front de chaque homme, femme, garçon et fille dans la ville, qui soupire et gémit à cause de l'abomination qui est commise dans la ville, à cause des péchés du peuple. Fais une marque sur eux. » Et puis, après qu'il est passé et qu'il a fait les marques, il est revenu et a dit, « C'est fait. » Alors, il a envoyé les hommes. Il a dit, « Allez-y et n'épargnez rien, mais tuez, détruisez tout ce qui ne porte pas cette marque. » Regardez bien, frère. Cette personne qui faisait les marques n'était autre que le Saint-Esprit. Et remarquez, s'il venait à Jeffersonville ce soir, au Branham Tabernacle, ou à n'importe quel autre tabernacle de la ville, ou n'importe quelle autre église, sur qui ferait-il une marque? Des gens qui ont été tellement sincères et honnêtes devant Dieu, qu'ils ont pleuré et gémi et prié jour et nuit à cause du péché de la ville. Qu'est-ce que cela ferait aux prédicateurs qui permettent aux femmes de le rassembler, de sortir en maillot de bain, de s'étendre en short et de se promener dans les rues? Elles chantent dans la chorale, se maquillent et agissent comme des Jézabels. Et quand les hommes là-bas, qui fument, qui boivent, qui se conduisent mal, qui jouent à des jeux d'argent et tout le reste, et ils agissent comme s'ils ne s'en souciaient pas, ils vont à un grand dîner où on sert du poulet ou à une fête quelque part. Ils restent à la maison le mercredi soir et regardent la télévision au lieu d'assister à la réunion de prière. En été, on ferme l'église, on annule les services. Que s'élèverait-il? Ce qu'il nous faut ce soir, c'est qu'une bonne partie de cette évangélisation hollywoodienne soit étouffée. Et on réveille à l'ancienne mode, envoyée par Dieu, des hommes et des femmes qui s'agenouillent à l'autel. Arrêtez cette histoire de serrer les mains, de lever les mains, d'asperger les gens, de baptiser vers l'avant, vers l'arrière, et tous ces autres petits rites et ismes, et venez-en avoir un esprit vraiment contrit, brisé, devant le péché qui est là. Mélangez tout ça, et commencez à pousser des cris à l'ancienne mode, comme un nouveau-né. Amen. C'est cette sorte de gens-là qui reçoit le Saint-Esprit. C'est vrai. Peu importe qu'ils soient méthodistes, baptistes ou catholiques, ou quoi qu'ils soient, quand ils se présentent devant cet autel et qu'ils gémissent jour et nuit, « Oh Seigneur Dieu, regarde les péchés de cette ville. Mon cœur ne peut pas trouver de repos. Je ne peux pas trouver de repos, Seigneur, en voyant ces choses se produire. Oh Dieu, fais quelque chose. Envoie-nous un réveil à l'ancienne mode. Alors, vous êtes sur le point de recevoir le Saint-Esprit, frère. Mais si vous vous avancez là parce que vous avez sautillé ou parce que vous avez dansé au son de la musique ou parce que vous avez fait autre chose et vous vous promenez et vous vous emportez, vous êtes indifférent, vous faites la moue et vous faites des histoires et vous adhérez à l'église et sautez d'un endroit à l'autre, cela montre que vous n'avez jamais rien reçu au départ. Frère, ça, c'est un bon remède puissant, mais ça va certainement vous guérir. C'est vrai, oui monsieur. Il vous fera sortir de tout ça, sans qu'il y ait un seul faible parmi vous. Comme Moïse, j'aimerais regarder dans sa trousse à pharmacie. Pas vous? Il y avait là-bas 2 millions de personnes. Aimeriez-vous voir dans la trousse à pharmacie de Moïse, ce qui s'y trouvait? Tous ces vieillards et des centaines de petits bébés qui naissaient chaque nuit, des infirmes et des malades. Et quand il est sorti, 40 ans plus tard, il n'y en avait même pas un seul qui était faible parmi eux. Certains d'entre vous, les médecins assis ici, n'aimeriez-vous pas voir dans sa trousse à pharmacie? Regardons dans cela et voyons ce qu'il en est. Maintenant, regardons en arrière. Nous allons le découvrir. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ça. Amen. Voilà ce que c'était. Je suis l'Éternel qui te guérit. Disons qu'un bébé va naître. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il a une pneumonie. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la seule ordonnance qu'il pouvait donner. C'est la seule dont il avait besoin. C'est la seule qu'il avait. C'est ce que Dieu lui a fourni. Bien sûr, aujourd'hui, oh, nous ne croyons pas en cela. Non, ça, Dieu ne change jamais. Il est le même. Si cet esprit, qui se conduit comme les gens le font aujourd'hui, sous le nom du christianisme, a donné mal au ventre à Dieu là-bas, et c'était une abomination que les gens agissent ainsi, c'est une abomination aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je me sens religieux. Remarquez, va ici, a-t-il dit, passe dans la ville et fais une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de l'abomination qui est commise dans la ville. Puis il a dit, après que tu l'auras fait, il a envoyé ces hommes qui avaient des instruments de destruction. Et ils sont allés de l'avant et ont tout détruit. Maintenant, historien, un instant, Jésus est venu dans la chair. Dieu manifesté dans la chair. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et quand il est venu dans la chair, il est allé partout. Il a donné des enseignements. Ils l'ont appelé Belzébul, diseur de bonne aventure. Ils se sont moqués de lui, de sa naissance, de tout le reste. On l'a rejeté, on l'a chassé. Il a dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il a réuni quelques Juifs. Il n'est pas allé vers ceux des nations. Il est allé vers les Juifs. Il avait été envoyé aux Juifs. Ce n'était pas une dispensation des nations. La dernière chandelle brûlait dans l'âge des Juifs. Et il est allé là. Et il y avait quelques personnes qui l'ont reçu. Des appelés à sortir. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Tout comme le Saint-Esprit qui parlait par Jésus-Christ les avait appelés à sortir à ce moment-là. C'est pareil pour le Saint-Esprit qui parle par Jésus-Christ qui appelle à sortir aujourd'hui. Ils croyaient au surnaturel. Ils observaient leur conducteur. Ils l'observaient. Ils savaient qu'il était le roi des prophètes. Ils savaient ce qu'il était. Ce qu'il a dit, Dieu l'a confirmé et a dit que c'était la vérité. Ils savaient qu'ils avaient la vérité. Ils savaient en qui ils croyaient. Et ils ont continué avec Jésus. Ensuite, on l'a crucifié. Il a dit, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. » Mais lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, il y avait un groupe de gens qui pleuraient, qui gémissaient, ainsi de suite. Et lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, soudain, un prêtre est arrivé sur la route avec une boîte de pain cachère, une boîte à communion. Il a dit, « Tirez la langue maintenant et je boirai le vin. » Quelle absurdité! Là-bas sur la route, un prédicateur protestant est arrivé et il a dit, « Nous nous donnerons la main d'association. Il faudra 6 mois de prohibition. Hein? Absurdité. Je vais vous asperger. Je vais vous baptiser. Je vais vous emmener par ici. Vous emmener dans l'église. Vous donner la main d'association. Absurdité. Mais lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, tout à coup, il vint du ciel comme un vent impétueux et cela remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur eux. Ils se sont mis à baragouiner, à bafouiller, à baver et à cracher, et ainsi de suite. Vous dites, ce n'est pas ça. Je vais vous le prouver par la Bible. Oui, monsieur, vous n'allez pas me dire que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la Bible dit. Saviez-vous qu'Ésaïe avait prophétisé? Je vais vous lire un petit quelque chose ici dans Ésaïe, juste un instant. Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements à propos de ce jour-ci, d'ordures. Il n'y a plus de place nette. Frère, si ce n'était pas là une image des Juifs, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Nous parlons de ces leçons ce soir, de la doctrine. Ceux qui viennent d'être sevrés, et ceux qui ont quitté la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. C'est comme ça que vient l'Évangile, de la Genèse à l'Apocalypse. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage étranger que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, la paix dont j'avais dit qu'il devait venir. Malgré tout cela, ils n'ont point voulu écouter, mais ils sont partis en secouant la tête. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ce n'était pas ma parole, c'est sa parole. Changez-la, si vous le pouvez. Elle ne pourra jamais être changée. Il a dit, précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Tout l'Évangile doit être dévoilé. Le plein Évangile doit commencer ici, et ils l'ont prêché. Et quand ils l'ont fait, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et ces Juifs s'étaient moqués de Jésus, mais ils ont ri. Ils ont dit, « Ha, 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 ces hommes sont pleins de vin doux. Ils ont scellé leur destination éternelle. » Ils ont dit, « Comment se fait-il que nous pouvons entendre, dans notre propre langue, les œuvres merveilleuses dont ils parlent ? Voyons, ces hommes sont pleins de vin doux. Ha, ha. » Ils se moquaient et riaient. Et Pierre, ce petit exalté, ce prédicateur de caisse à savon, il s'est installé une caisse à savon, a sauté dessus. Il a dit, « Homme juif, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à ma voix. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ces hommes ne sont pas pleins de vin doux, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais ceci, c'est cela. » Il s'est reporté à la Bible. J'ai souvent dit, « Si ceci n'est pas cela, je vais simplement garder ceci, jusqu'à ce que cela vienne, s'il y a autre chose. » C'est vrai, il a dit, c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Il arrivera au dernier jour, les derniers 2000 ans. Le premier 2000, le monde a été détruit par l'eau. Le deuxième 2000, Christ est venu au cours des derniers 2000 ans. Je répandrai mon esprit. Alléluia. Non pas « je vais assurer l'instruction des prédicateurs et envoyer des prêtres », mais « je répandrai mon esprit d'en haut. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et sur mes esclaves. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des miracles en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Voilà ce que c'était. C'était l'inauguration. Et ces Juifs ont ri et se sont moqués. Et ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. C'est ce qui a scellé leur destination. En l'an 96 de notre ère, la venue de Titus qui s'en allait là-bas, Jérusalem était encerclée par des armées. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces Juifs ont dit, maintenant, nous retournerons à la maison de l'Éternel. Mais ceux qui avaient été avertis et remplis du Saint-Esprit, comme Joseph l'a dit, ces cannibales qui ont mangé le corps de ce Jésus de Nazareth, il a dit, ils ont caché son corps et ils en ont mangé. Ils mangeaient la communion. Il a dit, eux, ce groupe là-bas, ces hérétiques. Saviez-vous que les gens de cette époque-là étaient appelés des hérétiques? Vous savez ça? Savez-vous ce qu'est un hérétique? Quelqu'un qui est fou. Oui, regardez Saint Paul. Maintenant, vous les gens, vous les baptistes, vous aimez dire Saint Paul, oh, je le crois. Vous les catholiques, vous dites, oh, Saint Paul. Et vous avez passé deux ou trois de ses pieds, à force de les embrasser, les statues là-bas à Rome. Saint Paul, oui monsieur, regardez ce que Saint Paul a dit quand il était devant Agrippa. Il a dit, selon la voie qu'ils appellent hérésie, désexaltée, c'est ainsi que je sers Dieu. Amen. J'aurais aimé lui donner la main. Je dirais, je crois la même chose, Paul. Alléluia. Oui, monsieur, la même chose. 1900 ans ont passé, Paul. Je crois toujours la même chose. J'ai toujours le Saint-Esprit, les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Tout est pareil. Ça continue toujours. Le même Saint-Esprit, encore scellé jusqu'au... Quand ? Jour de la rédemption. Cet évangile sera prêché. Quoi ? L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? Pas la parole seulement. Paul a dit, l'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais l'évangile est prêché en puissance et en démonstration du Saint-Esprit. Paul a dit, je ne suis jamais venu avec l'instruction d'un séminaire, venu en prononçant de grands discours, pour que votre salut soit fondé sur de superbes paroles et des lèvres enchanteresses, et sur de la doxologie ou un credo des apôtres, ou quelque chose comme ça. Je ne suis jamais venu vers vous comme ça, mais je suis venu vers vous en ne sachant qu'une chose, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia! Que Dieu nous donne d'autres Paul qui ne prendront pas de gants, mais qui présenteront cela clairement, sans mettre des gants de séminaire. Amen! Le sceau de Dieu. Amen! Maintenant, combien de temps nous reste-t-il? Beaucoup, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. C'est bien. Demain, c'est samedi. Aucun de vous ne travaille. Très bien, très bien. Souvenez-vous, seulement quelques minutes. Priez. Remarquez, frère, c'est un moment de sincérité. C'est maintenant le moment où nous devrions faire l'inventaire. Je ne suis pas ici en train de faire le bouffon. Si je l'étais, j'irais à l'autel et je me repentirais. J'agis peut-être comme un bouffon aux yeux de certains d'entre vous, mais ce n'est pas mon intention. J'agis d'une manière un peu drôle, de temps en temps. Je n'y peux rien. Quelque chose me saisit, me fait agir comme ça. Alors, je n'y peux rien. Mais dans mon cœur, frère, je la crois de tout mon cœur. Depuis une vingtaine d'années, je prêche ceci du haut de cette chair, dans le monde entier. Et Dieu a confirmé cela par des signes et des prodiges. Amen. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Maintenant, il a dit, avec les armes, forcez-les à avancer. Ils ont refusé de recevoir cette marque. Et il est allé de l'avant. Et Titus a siégé les murailles de Jérusalem. Et se sont précipités dans la ville. Ils les ont affamés là-dedans, au point que les gens faisaient bouillir les enfants les uns des autres et les mangeaient. Ils mangeaient l'écorce des arbres, l'herbe qu'il y avait par terre. Et alors, quand ils ont finalement dû abandonner, Titus, quand il est entré dans Jérusalem, il a exterminé tout ce qui s'y trouvait. Il a tué les femmes, les enfants, les bébés, les sacrificateurs et tout le reste. Et il a brûlé la ville. Et Jésus a dit, il viendra un temps où il n'en restera plus une pierre. On dit, regardez notre grande cathédrale. Frère, nous sommes baptistes ou méthodistes ou pentecôtistes ou quoi que ce soit. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Cela montre que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite dans les cœurs humains, car Dieu m'a formé un corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison, il habite dans le cœur. C'est ça, le temple. Vous ne savez pas que vous êtes les temples du Dieu vivant? Amen. Vous construisez un temple, vous construisez une église. Toute votre foi est bâtie autour de votre temple ou de votre église. Une idole en bois. Vous prenez la marque de la bête et n'en savez rien. C'est vrai, vous, les prédicateurs, vous vous promenez et vous passez tout votre temps à soutenir votre organisation. Et vous vous en allez aussi directement en enfer avec ça que vous le pouvez. Je vous le dis, frère, il est temps que les hommes se réveillent et prêchent l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Alors partout, appelons les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques et tous à la croix de Jésus-Christ. Maintenant, dites-vous, le vieux berger portait du miel. Il le mettait sur le rocher. Quand la brebis malade le léchait, elle se rétablissait. Frère, j'en ai tout un sac rempli ici ce soir, et je le mettrai sur le rocher, Jésus-Christ, et les brebis malades pourront lécher et se rétablir. C'est vrai. Frère, écoutez, je ne vais le mettre sur aucune église. Sa place, ce n'est sur aucune église. Sa place, c'est sur Christ. C'est tout à fait vrai. Formaliste, oh oui, nous croyons en Christ. Vos œuvres prouvent ce que vous croyez. Jésus a dit, « Voici les miracles, Q-U-I, qui accompagneront ceux qui auront cru jusqu'à la fin du monde. Et en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » C'est ce que Jésus a dit. Ce sont les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres. Puis, il a été enlevé au ciel. Et les gens qui vont de l'avant, en croyant et en prêchant la guérison divine et les puissances de Dieu, le monde les traite de fous. Et la Bible dit, s'ils appellent le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Condamnés, ils gisaient là, tous morts, tout à fait. Mais Joseph a dit, ces gens qui, ces gens de chrétiens, ils sont partis de Jérusalem pour aller en Judée, et ils ont échappé à toute cette colère. Or ça, c'était le juif, la fin du juif. Rapidement maintenant, pendant les quelques prochaines minutes, terminons avec ceux des nations, rapidement. Prenons Apocalypse, chapitre 7, où nous terminerons la dispensation des nations. Voyons si c'est vrai ou pas. C'est là que le prophète d'Ézéchiel 9 a prophétisé la fin de cet âge-là. Maintenant, voici le Saint-Esprit qui prophétise la fin de cet âge-ci. Écoutez attentivement maintenant, alors que je lis avec soin. Après cela, Apocalypse 7, là. Après cela, je vis quatre anges. C'étaient les cavaliers qui sont apparus au chapitre 6. Et comment ils sont apparus? Un cheval de couleur pâle, et un cheval noir, et le cheval roux, et ainsi de suite. Montés par ces cavaliers qui parcouraient le pays depuis longtemps. Je vis quatre anges, debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents, afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Maintenant, observez la vision qu'il a eue en premier. Je vis quatre anges debout aux quatre coins, quatre endroits autour de la terre. Un ange qui retenait les quatre vents. Les anges sont des messagers, la Bible dit. Et les vents sont des guerres et des conflits. Il retenait les quatre vents ici. Maintenant, regardez bien le verset 2. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. » et qui tenait le S-C-E-A-U, l'œuvre achevée, en d'autres termes, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux anges à qui on avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Regardez bien, je vais continuer à lire. Et j'entendis le nombre de qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de la tribu de la tribu des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12, et ainsi de suite, et Benjamin, et Gad, et Ruben, et ainsi de suite, jusqu'à Zabulon, et ainsi de suite, jusqu'aux 12 tribus, à la fin du verset 8. Et 12 fois 12 font combien? 144. 144 000, tous juifs. Maintenant, regardez bien. Et après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. D'où venaient-ils? Vous voyez, nous voyons où sont ces juifs à la fin. Et quand il était donné aux anges d'aller de l'avant pour détruire, il est dit ici, vu et retenu. Mais ceux-là, d'où venaient-ils? de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Ils sont apparus sur la scène, de tous les peuples et de toute langue. Ils se tenaient devant l'agneau et devant étaient revêtus. L'agneau revêtu de robes blanches et des palmes à la main. L'épouse des nations avait été scellée et mise à part ici. Observez. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et les anges qui se tenaient autour du trône, des vieillards, des quatre êtres vivants, se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Écoutez, si ceci ne ressemble pas à une réunion du Saint-Esprit, à louange, amen, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance, force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Ça ne me semble pas être un jour de service de baccalauréat ritualiste. Ça me semble être une effusion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Ces gens avaient été quelque part. Ils ont su quoi faire quand ils ont vu l'agneau assis sur le trône. Et l'un des vieillards m'a dit, « Ceux revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Or, vous connaissiez tous les Juifs, mais d'où venaient-ils ? De toute tribu, de toute langue et de toute nation. Observez. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Jean a dit, « Je ne sais vraiment pas. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui avaient cela, je suppose. » Très bien. « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, appelés des exaltés, raillés, persécutés, tournés en ridicule, viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Regardez bien. Ils sont devant le trône de Dieu. Où se tient la femme ? Où se tient la reine ? Ça, c'est l'épouse des nations. Et ils le servent jour et nuit dans le temple. Ma femme me sert à la maison jour et nuit. Voyez, c'est l'épouse de Jésus, c'est l'épouse des nations. Ceux qui sont assis sur le trône dresseront leurs tentes sur eux. Ils n'auront plus faim. Alléluia ! Les journées de travail, c'est terminé. Eh bien, nous avons manqué beaucoup de repas, mais nous n'en manquerons jamais un seul là-bas. Amen. Je sais que ma pauvre vieille mère est assise ici ce soir, et je l'ai vue se lever de table. Nous avions du café et du pain rassis. Elle le versait dessus. Elle y saupoudrait du sucre, et il n'y avait pas assez pour tout le monde. Les enfants pleuraient. Elle se levait et s'éloignait. Mais nous ne le ferons jamais là-bas. Mon vieux papa reposait dans mes bras, de l'autre côté de la rue, là-bas. Et il est mort, affamé. Mais ça ne nous arrivera plus jamais. Alléluia ! Non, monsieur, nous ne serons plus jamais affamés. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront pas soif. Le soleil ne les frappera point. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira dans les sources de l'eau de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il se peut qu'ils pleurent et qu'ils fassent un peu de bruit quand le Saint-Esprit viendra. Mais Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Regardez bien, il a vu quatre anges debout aux quatre coins, retenant les quatre vents. Rapidement maintenant, mon temps est écoulé, mais permettez-moi de vous apporter ce point avant de terminer. Regardez, il a vu les quatre anges, il a vu la fin de l'Église juive, il les a vus arriver, les mêmes, venant avec leurs instruments de destruction, cette armée. Maintenant, regardez bien. Quel genre de marque l'Église du Saint-Esprit a-t-elle reçu comme marque sur son front? C'était un signe spirituel. Le Saint-Esprit les a marqués. Pas vrai? Il n'a jamais rien tatoué sur leur tête, n'est-ce pas? Non. Ils n'ont pas été condamnés par un pays anti-religieux. Ils ont été condamnés par les leurs. Vous voyez ce que je veux dire? La vraie Église du Dieu vivant sera condamnée par les catholiques et les protestants parce qu'ils s'uniront. Ils sont déjà unis ensemble, mère et fille. Mais ceux-ci ici ne l'étaient pas. Alors, regardez bien ce qu'il a fait. Il a dit, « Fais une marque sur leur front. » Quel genre de marque était-ce? Je vais vous le lire. Acte 2. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint un bruit, l'ange descendant du ciel. Vous dites, l'ange était un bruit? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui est passé devant David quand il a entendu le bruit des feuilles agitées, des feuilles de mûrier, cette nuit-là, alors qu'il avait peur d'aller de l'avant? Ils entendirent, venant du ciel, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Dieu qui vient devant eux. Tout à coup, le Saint-Esprit et la puissance leur apparurent. Les voilà qui sont sortis dans les rues, en bondissant et en sautant, en parlant en langue, en balbutiant, en poussant des cris, et agissant comme des ivrognes. Et tout le monde se réjouissait et louait le Seigneur Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est comme ça que Dieu fait les choses, quand il fait descendre sa puissance par le baptême du Saint-Esprit. Et cela est entré directement là. Et voilà, le message s'est répandu. Alléluia! Ils poussaient des cris, ils hurlaient, ils parlaient en langue, et ils sont sortis là. Et c'est ça, la marque que Dieu a mise sur les gens. Pas vrai? Dieu a mis la marque, et c'est le genre de marque que Dieu va mettre sur son peuple aujourd'hui. Le même sceau de Dieu qui était mis sur eux à ce moment-là, par le baptême du Saint-Esprit, c'était le sceau de Dieu. Je veux vous demander quelque chose, Église. La Bible dit que la marque de Dieu, à cette époque-là, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le sceau qui était sur les gens pour les rendre différents des autres, c'était le baptême du Saint-Esprit. Pas vrai? Le Nouveau Testament dit, dans Éphésiens 4:30, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu pour les gens des derniers jours, vers votre destination éternelle. Pas vrai? Alors le Saint-Esprit avait raison. Bon, nous avons eu l'âge méthodiste, nous avons eu l'âge baptiste, nous avons eu la justification, nous avons eu la sanctification, nous avons eu toutes ces choses qui se sont succédées. Et il y a environ 40 ans, le baptême du Saint-Esprit était enseigné pour la première fois aux États-Unis. Pas vrai? Il y a environ 40 ans, quand les gens ont commencé à recevoir, or autrefois, ils appelaient cela la seconde œuvre bien précise de la grâce, la sanctification. La sanctification, c'est vrai. Un vase doit d'abord être pris, ramassé. Il est couvert de boue. Il est justifié parce que l'homme l'a ramassé. Ensuite, il faut qu'il soit nettoyé et récuré. Le mot sanctifié signifie nettoyé et mis à part pour le service. Mais mis à part pour le service ne signifie pas que vous êtes mis en service. Et alors Jésus a dit, heureux êtes-vous quand vous avez faim et soif de la justice, car vous serez rassasiés. Vous voyez, le Saint-Esprit est venu sur le croyant sanctifié, le véritable et réel croyant sanctifié. Et les signes, les prodiges ont commencé à se manifester dès que ce vase sanctifié a été prêt et le Saint-Esprit y est entré. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire sortir de l'huile de cette bouteille sans qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. Peu importe combien la bouteille est propre, vous ne pouvez pas faire sortir le parler en langue, la guérison divine et les puissances de Dieu de quelque chose dans lequel il n'y a rien. Il fallait donc faire venir le Saint-Esprit. Observez, il y a environ 40 ans, remémorons-nous. Nous observons, soyez bien attentifs, un grand chef est sorti, un homme de la Première Guerre mondiale. La première fois dans toute l'histoire du monde, une guerre mondiale. Où s'est-il dirigé? Tout droit en Allemagne. Que s'est-il passé? C'est étrange, jusqu'à ce jour, personne ne sait comment ça s'est arrêté. Personne ne le sait. Lisez le déclin de la guerre mondiale. Chaque volume, je les ai lus. Il n'y a pas une seule personne. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un ordre a été donné. Rendez-vous. Personne ne sait qui l'a donné. Pourquoi? Oh Dieu! Vous allez m'appeler un exalté de toute façon. Alors, aussi bien agir de la manière dont je me sens. Regardez, comme je suis reconnaissant que le Saint-Esprit soit ici, sur l'estrade, pour révéler. Remarquez, observez, ils sont allés de l'avant. Chaque vent qui soufflait sur le monde, des armes modernes, pour tout exterminer, dans une guerre mondiale. Mais tout à coup, ça s'est arrêté. Apocalypse, chapitre 7, dit « Je vis descendre les quatre anges avec leurs instruments de destruction. Et voilà qu'apparut un homme, arrivant du côté du soleil levant, qui avait le sceau du Dieu vivant. Il a dit « Retenez les quatre vents, retenez-les. Pourquoi? Les Juifs ne sont pas encore au bon endroit. » Gloire! Les Juifs ne sont pas au bon endroit. C'est le calendrier de Dieu. Il leur a dit où ils seraient, où ils se trouveraient là-bas. Il a dit, quand vous verrez les branches du figuier pousser, sachez que le temps est proche. Et quand vous verrez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Eh frère, au cours des 7 dernières années, c'est la première fois que le drapeau juif flotte en 2000 ans sur Jérusalem. Oui, 2500 ans. Amen. Les Juifs n'étaient pas exactement à l'endroit où cela pouvait s'accomplir. Mais il a dit, retenez, retenez. Pourquoi? Pourquoi retenir? Regardez bien, il y avait encore des gens des nations entre l'âge de Wesley et l'âge pentecôtiste qui devaient entrer. Avant que le pentecôtisme entre dans l'âge de l'église de Laodicée, une porte ouverte avait été mise devant l'église. Une porte ouverte pour que celui qui veut vienne boire à la source des eaux de la vie gratuitement. Une porte ouverte mise là. Oh là là! Et il a dit, retenez-les. Pourquoi? Jésus a dit, un homme est sorti et il a travaillé. Et un autre homme est sorti, une heure plus tard, et il a travaillé. Un autre homme est sorti et a travaillé. Et un homme est sorti à la 11e heure. Et quand il s'est arrêté à la 11e heure, il a donné à chacun la même part, la 11e heure. Il se demandait pourquoi. Pourquoi la 11e heure lui a-t-elle été accordée? Le moment où tout le monde entre. Martin Luther, qui a œuvré, qui a marché sous la dispensation de Luther, est mort dans la grâce. D'autres, des méthodistes, qui poussaient des cris, qui sont morts sous l'âge de Wesley, sont morts dans la grâce. Nous vivons dans un autre âge, pas à cette époque-là. Ici, avant, maman se promenait en char à bœufs. Et nous nous promenons en Ford, modèle 8 cylindres. Presque une propulsion par réaction. C'est vrai. Nous vivons dans un âge complètement différent et nous vivons dans une dispensation différente. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu et ici même, nous voyons la puissance de Dieu comme ils l'ont vu au commencement. Nous vivons dans un autre âge. N'ayez pas les regards en arrière sur Wesley, les méthodistes et tout cela, les baptistes et les presbytériens. Ayez les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi de la Bible. Alléluia! Maintenant, observez-le. Il a dit, retenez-les, jusqu'à ce que, quoi? Les gens de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel des gens des nations. Maman a travaillé là. Papa, les autres ont travaillé ici. Grand-maman a travaillé là-bas. Ceci, c'est notre âge, la 11e heure. Cette guerre mondiale s'est terminée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, à la 11e heure du jour. Et à la 11e minute de l'heure, pour que les gens de la 11e heure puissent entrer, quoi? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que ont reçu ici au commencement, pour ramener la puissance, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les mêmes signes et prodiges. Qu'est-ce que c'est? Les guerres, on se bat ici, on se bat là, on se bat ici, on se bat là, essayons de... Les bombes atomiques et tout le reste, on en fabrique toujours plus, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire tant que les Juifs ne reçoivent pas la visitation du baptême du Saint-Esprit. L'ange a dit, retenez-le jusqu'à ce que nous saluions les serviteurs, pas l'épouse. Les gens des nations n'ont jamais été des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles. Ça, ce sont les serviteurs, les Juifs. Abraham était le serviteur de Dieu. Alléluia. Bon, des milliers de milliers de milliers de Juifs. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour les contraindre à aller en Palestine. Dieu a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. Il les pousse par la force à aller en Palestine. Sans savoir ce qu'il fait, il n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. Les 144 000 se retrouveront là-bas. Et un de ces jours, un saint prophète de Dieu, loin, divin, ira là-bas avec des signes et des prodiges. Ces Juifs diront, c'est ce que je cherche. Oui, monsieur, et Dieu accordera le baptême à 144 000 Juifs. Et l'enlèvement viendra, l'âge des nations prendra fin, la bombe atomique va exploser et détruire le monde. Et l'Église des nations sera enlevée pour se tenir là, dans la présence de Dieu. Qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils sont devant Dieu, sans tache. Amen. La marque de la bête, la confédération, les églises, le catholicisme, tous liés ensemble, sombres dans le chaos. Le reste, l'épouse remplie du Saint-Esprit. Et les gens aujourd'hui qui se moquent du parler en langue, qui se moquent de la guérison divine, qui se moquent de la prophétie, qui se moquent de la manifestation de l'Esprit. Le même Esprit qui dominait ces Juifs là-bas qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit à cette époque-là et qui sont morts par le jugement divin. Ces États-Unis sont voués au jugement divin sous la puissance du Saint-Esprit. Ils nous ont condamnés, se sont moqués, nous ont rejetés et nous ont traités d'exaltés et tout le reste. Mais l'heure est arrivée où Dieu répondra à son jugement divin. Amen. Préparez-vous. Le seul lieu sûr aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas entré, luttez jusqu'à ce que vous entriez. Ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu les amènera avec lui dans la seconde venue. Sans le sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, la confédération de l'apostasie est la marque de la bête. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces docteurs religieux essaient de mettre ça sur le compte du communisme, alors qu'ils ne se rendent pas compte que ça agit ici même au milieu d'eux. Il a dit, ce seront des aveugles qui conduisent des aveugles. Il a dit, ils auront des yeux, mais ils ne pourront pas voir. Il a dit, vous, au moyen de vos traditions, vous apportez des doctrines d'hommes, vous faites des commandements d'hommes, et vous avez annulé les commandements de Dieu. Vous vous moquerez des catholiques pour avoir établi leur catéchisme. Mais vos hommes vont ici même à une conférence ou quelque chose comme ça et décident s'ils peuvent recevoir la guérison divine ou le baptême de l'Esprit et ces choses. Et ils le condamnent et le rejettent. Et vous vous moquez des catholiques. Vous n'avez aucun droit de vous moquer des catholiques. En effet, si elle était une prostituée, la Bible dit que vous êtes une impudique de la même confédération. Sortez du milieu de cela, mon peuple. Séparez-vous, dit Dieu, et je vous prendrai avec moi. C'est vrai. Oh, pourquoi ce Branham Tabernacle ne peut-il pas sortir de son déclin? Je veux savoir si vous, les gens d'ici, croyez à cet évangile. Il a été prêché, et vous l'avez vu, des signes et des prodiges, et il a été confirmé. Et tout ce que le Seigneur a prononcé s'est accompli. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'entends qu'il y a des disputes parmi vous, quand j'entends qu'il y a des conflits, je veux que vous écriviez ce qui ne va pas chez vous, ce que vous avez à cœur, et déposez-le sur cette chair, ici, sur l'estrade, demain soir. Je veux voir pourquoi cette église ne peut pas être emballée par la puissance de Dieu et le baptême du Saint-Esprit, avec des signes et des prodiges. Qu'est-ce qui se passe? Votre pasteur y croit, vous y croyez. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ceci devrait être le phare du monde. Ceci devrait être un lieu où jour et nuit, il y a les puissances de Dieu, des pleurs et des gémissements et des gens qui recherchent Dieu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cela? Je veux le faire, mais tu ne le veux pas, a dit Jésus. Tu ne le ferais pas. Viens, achetez de moi. Je sais que tu dis, a-t-il dit, que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, en s'adressant aux églises. Il a dit, tu dis, je suis riche. Et je n'ai besoin de rien. Nous sommes une organisation plus importante. Et vous ne savez pas que vous êtes malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Et vous ne le savez pas. Si un homme est dans cette situation et qu'il le sait, il essayera de s'en sortir. Mais quand vous êtes comme ça et que vous ne le savez pas, et Christ a dit que les églises de ce jour-ci seraient comme ça et qu'elles ne le sauraient pas. Pincez votre être spirituel, mon cher, cher frère. Pincez votre âme, pour ainsi dire, en priant, et dites, « Seigneur Jésus, examine-moi bien, que je fasse l'inventaire ce soir, avant d'aller au lit, pour voir ce qui ne va pas chez moi. Ça fait des années que je professe, et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, qu'il serait avec moi, et que ces choses se produiraient. Je ne vois pas ces choses. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Soyez honnête, soyez sincère, venez lui parler, comme si vous étiez face à face avec un frère. Il vous le révélera, il vous le dira. Déchirez votre âme, et là, déposez-la. Dites, Seigneur Jésus, si cela me coûte ma famille, si cela me coûte la vie, si cela me coûte mon emploi, si cela me coûte mon statut de membre, si cela me coûte mon prestige dans la ville, je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit, étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront, car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. 1 million de plus en 54. Large la porte qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est vrai, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui aime son père, sa mère, sa sœur, son frère, ou quoi que ce soit, plus que moi, n'est pas digne d'être appelé mien. Celui qui mettra la main à la charrue et se mettra à avancer, qui même se retourne pour regarder en arrière, n'est pas digne de ce temps-là. Père, un de ces jours, le dernier sermon de l'Évangile, loin du Saint-Esprit, sera prêché. Un de ces jours, le dernier coup de feu sera tiré. Un de ces jours, le dernier cantique sera chanté. Un de ces jours, la dernière prière sera prononcée. Un de ces jours, les portes du tabernacle se fermeront pour la dernière fois. La Bible sera fermée sur la chair. Et vous vous tiendrez dans la présence de Dieu pour rendre compte de ce que vous avez entendu ce soir. Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert, alors quoi? Quand on passera l'enregistrement de cette soirée-ci, alors quoi? Oh, comme le dit le chant, alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert, alors quoi? Quand ceux qui ont rejeté le Sauveur aujourd'hui devront justifier leur position, alors quoi? Votre travail vous a fait obstacle. Vos parents vous ont fait obstacle. Votre petit ami vous a fait obstacle. Votre petite amie vous a fait obstacle. Votre église vous a fait obstacle.
This message tonight, you're gonna ask to give a reason. What then?
Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Vous savez ce qu'est la marque de la bête. Vous savez ce qu'est le sceau de Dieu. C'est à vous de décider. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous nous levons. Bienveillant Père Céleste, que ta miséricorde et tes bénédictions reposent sur les gens, que ton esprit agisse et que ton Saint-Esprit descende sur ce peuple. Et Seigneur, donne-leur le baptême de l'Esprit. Puisse chaque homme et chaque femme, garçon et fille, ici, qu'ils soient tellement transportés ce soir par le Saint-Esprit, qu'ils diront, « Oh Dieu, prends tout ce que j'ai, prends tout ce que je suis, mais permets que je te serve, mon Seigneur. » Je mettrai tout de côté. Je vais renoncer à moi-même. Je vais renoncer à mon orgueil. Je vais abandonner l'Église. Je vais tout abandonner. Non pas qu'ils devraient sortir de leur Église, Seigneur, mais il faut qu'ils sortent de l'état dans lequel ils vivent. Oh Dieu, renvoie les méthodistes dans leur Église, enflammés, pour qu'ils prêchent l'Évangile. Renvoie les baptistes, renvoie les combélites, renvoie les catholiques. Seigneur Dieu, envoie quelqu'un du Branham Tabernacle, ici, ramène-le ici au tabernacle, avec un esprit doux et humble, qui ira de l'avant et parlera et aimera et essaiera d'amener les gens de nouveau d'un commun accord. Pour que le Saint-Esprit puisse entrer et utiliser les gens, envoie de grands signes et des prodiges. Loin chaque croyant, pardonne chaque péché. Ô Dieu, nous voyons les signes apparaître. Nous voyons le figuier bourgeonner. Nous savons que le temps est proche. Nous voyons cette bombe là-bas, entre les mains de l'homme même, dont tu as dit qu'il avait été donné de détruire le monde. Ô Dieu, comment pouvons-nous rejeter plus longtemps? Comment le pouvons-nous, alors que nous entendons ton évangile béni résonner si clairement, que nous entendons le Saint-Esprit agir, que nous voyons le Saint-Esprit accomplir des signes et des prodiges, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ramener les morts à la vie, de grands prodiges et de grands signes. L'évangile prêché par des illettrés, des ignorants, prêché sous la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, des signes et des prodiges qui accompagnent l'Église, et combien plus encore. Tu as dit, si vous aviez connu Moïse, vous auriez connu mon jour. Alléluia! C'est pareil aujourd'hui, Seigneur. Ils voient toutes sortes de signes, de guerre et de troubles, et tout. Qu'ils tournent les pages de la chère vieille Bible, et qu'ils voient où se trouve la borne kilométrique. Nous sommes à la fin de l'âge. Ô Dieu, fais agir ton esprit sur ces gens, et alors qu'ils repartent d'ici ce soir, puisse le Saint-Esprit repartir avec eux. Et demain soir, Seigneur, quand nous viendrons à ce grand appel à l'autel que nous avons l'intention de faire, nous prions pour que les autels soient remplis, que les salles de prière soient pleines, et que dimanche matin, Seigneur, et dimanche soir, Nous baptisions les gens ici, conformément à la parole de Dieu. Et puisse le Saint-Esprit descendre sur cette eau et accomplir de grands signes et des prodiges. Accorde-le, Père. Bénis notre cher pasteur ici présent. Bénis les membres. Bénis les nouveaux venus parmi nous. Puissions-nous rentrer à la maison ce soir et méditer ces choses dans notre cœur et revenir demain soir dans l'allégresse, portant nos gerbes. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Serrez-vous la main les uns les autres. Revenez demain soir en apportant votre requête et ce que vous voulez et déposez cela sur la chaire. Que Dieu vous oigne à jamais. Qu'il soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.